Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le 181e podcast de Gameblog.fr. Vous le voyez, je les tiens, toutes vos questions que nous allons passer au crible. Alors pas toutes, une sélection des questions que vous avez posées. Vous le savez, régulièrement, tous les mois, le courrier des lecteurs, la parole finalement vous est donnée. On va vous citer, on va rebondir sur les thèmes, les débats, les interrogations que vous avez. Et pour y répondre le mieux possible, eh bien, nous avons autour de la table transparente, translucide... Émeric, Mimic, ça va bien ?
Bien, bien, et toi ?
Bah écoute, ça va bien.
Ça va.
Mimi qui ne parle qu'en bien, bien comme ça.
C'est ça, bien, bien. Mais parce qu'il vient de Marseille, bien, bien. Elle a bien cousin.
Bien.
Tranquille.
Ça roule.
Julo, qui parle comment, Julo ?
À l'alsacienne, pointu comme un pinsuit, c'est-à-dire avec un.
Pinsuit.
Voilà. L'accent pointu, c'est comme ça que nous appellent les Corses. L'appellent notre accent, les Corses.
D'accord.
Voilà, pinsuit, ça veut dire pointu.
Je pensais que c'était un hommage à Eric Cantona.
Non, non. Non, non, et puis le Parigot aussi, voilà.
Très bien. Bon, le Belge, Raon.
Je l'attendais, celle-là. Bah écoute, ça va très bien, oui. Mais je ne suis pas belge du tout. Hein.
Je sais, c'est une légende urbaine sympathique.
Bah oui.
Eh bien, c'est parti. Nous voici dans ce podcast, cinquième courrier des lecteurs de l'histoire de Gameblog.fr dans les podcasts. Alors, vous le savez, à chaque fois, on découpe ça. D'un côté, les questions liées à l'univers du jeu vidéo à proprement parler, vos interrogations. Et puis, dans un deuxième temps, Mr. P nous rejoindra d'ailleurs, qui sera dédié à des questions plus afférentes à la rédaction, la vie de la rédaction, à Gameblog, et vous saurez quelles sont les petites nouveautés à venir. Vous pourrez relayera les questions techniques parfois, et Mr. P du coup vous y répondra. Alors on va commencer avec la partie jeux vidéo, et la première question est celle de Bast6. Voici sa question. Avec les technologies des cartes mémoire flash type SD card, memory stick, etc. qui baissent en coût, pensez-vous qu'un constructeur, Nintendo entre parenthèses, pourrait ressortir une console de salon dont le support serait des cartouches ? Alors messieurs...
J'ai une réponse rapide à ça moi.
Raon.
Oui. Oui. J'allais faire la même.
Mais pourquoi ?
Ça paraît plus évident en fait, et probablement oui. Pas que Nintendo.
Bah oui.
Ça a que des avantages en fait.
Surtout pour les consoles portables en fait. Mmh. À la base, c'est vrai. Mais c'est des avantages, un temps de chargement,
économie d'énergie.
Économie d'énergie, économie aussi de. Enfin, la fiabilité aussi des machines, parce que c'est con, mais un lecteur optique c'est beaucoup plus fragile.
Ça serait,
lentilles qui se dérèglent, enfin toutes les merdes qu'on connaît depuis l'époque PlayStation. Donc,
même
oui,
si la mémoire se dégrade aussi, la mémoire flash.
Oui, ça dépend un petit peu dans quelle mesure, mais tant
c'est
que tu pas
inscrit,
dessus,
voilà. Quand tu écris et réécris dessus.
Tant que c'est juste de la lecture, ça pose aucun problème.
Mm-hmm. Les sauvegardes, tout ça, ça s'écrit, ça serait.
Ouais, mais
ça,
pas
ça.
Sur le. Enfin bon, bref.
Mais c'est vrai que par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement les coûts ont tellement chuté qu'aujourd'hui, par exemple, on voit Microsoft. On reparlera parce que c'est une question qui a été posée un petit peu plus tard. On voit que Microsoft galère un peu avec finalement l'espace restreint d'un DVD. Aujourd'hui, ils essaient d'augmenter un peu sa capacité. On va le voir avec des prochaines mises à jour de la Xbox. C'est vrai que là,
en place, ça prend de la place un disque optique, quoi.
Voilà.
En place physique, je parle vraiment. C'est 12 cm. De disque aujourd'hui sur un nombre de pouces, on peut foutre 16 gigas easy, quoi.
C'est ça. Et après, ça a même des répercussions purement économiques aussi. C'est que justement à transporter, donc à mettre dans des containers, des cargos, dans des avions, ça prend beaucoup moins de place si on fabrique une toute petite boîte plutôt que
c'est la
boîte
place
PCB.
Et le poids qui coûte, ouais. Donc effectivement, ouais, ça fait oui, c'est très bien pour tout le monde.
Donc il est possible, on l'a vu avec la NGP qui abandonne par rapport à la PSP le format disque, mais c'est vrai que sur les consoles portables on est plus habitué à ce format cartouche, mais il pourrait très bien revenir effectivement aussi en salon, même si en tout cas ce serait une première étape avant peut-être un tout dématérialisé.
La vraie question en fait ça va être ça, je pense. C'est, est-ce qu'il y aura est-ce qu'on va passer par là avant d'arriver à quelque chose de dématérialisé?
Je pense que oui quand même, parce que mine de rien, même si en France, on est quand même assez bien loti au niveau d'Internet, paradoxalement, tout le monde ne l'a pas non plus quand même, et surtout tout le monde n'a pas des connexions en fibre ou à très haut débit. Et par exemple, quand on voit l'explosion un petit peu des mégas et des gigas même pour les jeux, s'il faut télécharger 40 gigas,
oui, c'est un peu long.
S'il y a une coupure de réseau, s'il y a un problème qui se fait, enfin, etc., c'est un petit peu embêtant quand même.
Oui, et puis il y a l'aspect aussi économique derrière avec les partenariats, avec la distribution traditionnelle, qui a pour le moment, en tous les cas encore, plus de facilité à distribuer des vrais produits physiques que des cartes avec des codes de téléchargement dessus, même si
quoi
c'est en train
d'arriver.
Quoi qu'ils
commencent à le faire, voilà. Avec le Xbox Live, ils avaient commencé en Angleterre sur l'enseigne Game à distribuer, en fait, ils avaient fait quelques tests dans certaines boutiques du Royaume-Uni et ça avait bien marché, et là c'est parti en France également avec Micromania cette fois, et donc ils font des vrais rayons où tu peux acheter Braid et autres jeux normalement uniquement disponibles sur le XBLA. sous forme de cartes que tu payes à la caisse, de codes que tu payes à la caisse. Et je crois que ça marche bien. Les gens découvrent en fait, c'est, bah c'est oui. une nouvelle manière de, pour certains de découvrir en fait des choses auxquelles ils pensaient pas avoir accès ou qu'ils connaissaient pas, etc.
En tout cas, Bast 6 ou 6, tu auras compris que de notre point de vue, il est fort probable que des consoles de salon soient bientôt ou à terme rééquipées en cartouches. C'est une sorte de retour en arrière, mais pas en plus technologique que les cartouches, la NES, la Super Nintendo, la Master System et compagnie. Allez, nouvelle question, celle de Tony12V. Pensez-vous réellement que la médiatisation des personnes rencontrant des problèmes avec la 3D de la 3DS puisse suffire à freiner les ventes de la console portable ? Alors, c'est vrai que dans nos entourages respectifs, et même quand on a fait le petit micro-trottoir dans la rue, c'est vrai que c'est en tout cas clairement quelque chose qui revient très souvent, visiblement. Le grand public est très informé des problèmes potentiels ou pas avérés de cette 3D auto-stéréoscopique, ouais, Julo.
Je pense que Nintendo n'a pas mesuré à quel point ça pouvait avoir un impact. Tu sais, le premier message qu'ils ont passé, c'était, je crois, quand ils ont présenté la console au Japon dans un petit salon. Ce message qui a fait le tour du monde et qui a alerté tous les médias et qui fait que des gens de France 2 sont venus nous interviewer, que les gens dans notre entourage cherchent à savoir aussi, toujours quand on leur parle de la 3DS, mais alors ça fait vraiment mal à la tête.
Ouais, avant de savoir si c'est bien, ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux.
Ouais. Et t'as même l'impression que les gens ont un avis presque à l'avance, et au moment où ils vont prendre la console entre les mains, ce fameux effet un peu étrange qu'on a quand on découvre l'écran 3D, qui est quand même un truc légèrement, largement positif en fait, qui est une nouvelle dimension, etc. Et dans la tronche des gens, le fait de subir cet effet là, t'as l'impression qu'ils reculent et qu'ils se disent oh là là, est-ce que c'est dangereux pour moi, etc.
Oui, parce qu'il y a une petite perception physique quand même, enfin je sais pas pour vous, forcément les yeux travaillent,
et comme ils ont eu le message
désagréable,
négatif avant.
Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. On sent qu'il y a une petite convergence des yeux. Alors effectivement, comme le dit Julo, peut-être que soudainement ils se disent ouh là là, mais attention, à long terme, c'est pas bon.
Voilà, c'est ça. Vu qu'ils ont eu le message bien avant d'essayer la console.
Tu sens que ça fait un effort en tout cas.
Et je crois que les actions de Nintendo sont en train de baisser.
Oui, fortement. Il faut dire qu'au Japon, alors malheureusement au Japon, il y a un problème.
Ouais.
Donc c'est sûr que le jeu vidéo, on ne le répétera jamais assez, étant qu'un simple divertissement, il faut le savoir le laisser à sa place. C'est pas forcément la première chose sur laquelle on va mettre de l'argent en ce moment. Néanmoins, la PSP en ce moment se vend mieux.
Oui, la PSP a distancé la 3DS effectivement au Japon, alors qu'elle vient de sortir et qu'il n'y a pas a priori de problème de stock, de production. C'est simplement parce que la PSP, c'est une console qui marche très 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 bien au Japon, qui a eu deux ou trois grosses sorties dernièrement. Et aussi, il ne faut pas l'oublier qu'elle est beaucoup moins chère que la 3DS. Donc elle est passée devant sur les deux dernières semaines.
Ce qui est sûr, en tout cas, pour répondre, en tout cas, élargir un petit peu le débat que nous proposait Tony12V, Satoru Iwata, président de Nintendo, avait tablé au 31 mars sur 4 millions de Nintendo 3DS vendus à travers le monde. Aujourd'hui, on sait qu'au Japon, c'est à peu près 800 000. Les premiers chiffres européens font état de 330 000, mais ça c'était sur la première semaine, donc on les double sur parce que la première semaine arrivait au 31 mars, donc pas la peine de les doubler. Et aux États-Unis, malgré un bon démarrage, ils n'ont pas encore communiqué les chiffres. On va dire 500 000 ventes, 800 000 plus 500 000 plus 300 000, on est très très loin des 4 millions.
Et d'ailleurs ils communiquent beaucoup plus sur le fait que c'est la console qui s'est vendue le plus vite.
Par rapport à la DS
qui avait fait un très mauvais démarrage.
Voilà. Pour donner un chiffre, par exemple, en Angleterre, quand la DS avait fait une semaine de lancement, enfin un démarrage à 86 000 pièces, la PSP en avait fait 180 000 dans le même laps de temps. Donc c'est sûr qu'entre guillemets, faire mieux que la DS, c'est forcément bien, mais c'est pas forcément un record, pas forcément des gros volumes de ventes. Donc il faut bien prendre ça en considération, et c'est vrai qu'on va attendre un petit peu. Il faut dire quand même que le line-up de lancement, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, même si tout n'est pas acheté, il n'est pas extraordinairement fort, ce qui peut aussi expliquer cela. Mais c'est vrai que on le sait, et rappelez-vous le podcast qu'on avait fait, le fameux podcast sur téléphone portable et console traditionnelle, 42% des possesseurs de DS avaient moins de 7 ans.
Oui.
Et quand on sait que cet effet 3D justement est déconseillé aux moins de 7 ans, c'est la moitié du marché de la DS qui en gros n'y a pas accès. Et c'est sûr que autant les parents peuvent être un peu laxistes sur l'énorme PEGI parce que ils ne les connaissent pas bien, etc.
Dès
autant
qu'il s'agit d'aller payer des trucs d'ophtalmo, etc. Oui, c'est autre chose.
Là, ils seront beaucoup plus vigilants. Donc c'est quand même très risqué de la part de Nintendo. À la fois, c'est son meilleur argument, cette 3D qu'on trouve qui fonctionne plutôt bien.
C'est peut-être son talon d'Achille.
Exactement.
Avec le prix. Mais parce que même chez nous, évidemment, c'est...
Moi, l'autonomie, vraiment, elle me fait enrager.
Je pense que les gens en entendent parler, surtout une fois qu'ils l'ont acheté et qu'ils sont déçus. Mais avant l'achat, je pense que vraiment, le prix, c'est quand même un gros frein avec ce problème de 3D.
Il y a aussi la possibilité qu'il y ait une version light qui arrive très rapidement. Ça m'a fait vachement réfléchir. Et avec les gens avec lesquels je discute autour de moi, ils sont tous pareils. Ils se posent vraiment la question de se dire, si ça se trouve, dans un an, voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jeu qui me font de l'œil, donc du coup ça fait forcément son effet, c'est obligatoire. Tu peux pas profiter d'un effet pendant des années sur la console précédente et puis que les gens se posent pas la question à la sortie d'une nouvelle machine, quoi.
Ils ont vaguement communiqué là-dessus, enfin Reggie a un petit peu parlé de ça, mais
j'ai pas trouvé ça très rassurant.
Rassurant parce qu'en fait il élude la question plus qu'il n'y répond, quoi. C'est genre oui, c'est
pas cette année,
pas cette
en
année
tout cas.
Mais tu sais pas trop s'il parle d'année calendaire fiscale, ou fiscale ou machin, donc oui, c'est un peu comme ça.
C'est un secret de polichinelle, quoi, c'est évident.
Bah oui.
Mais après, tous les constructeurs sont un petit peu sur la même enseigne.
C'est normal. Enfin, toi-même, tu sortirais une console, tu dirais pas la nouvelle, elle arrive. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Tu sais, au moment où tu lances la première, non, c'est pas possible.
Tout le monde le sait.
Allez, nouvelle question, celle de Lord. Alors, Lord nous demande, à votre avis, quel est le point de la presse jeux vidéo dans le monde ? A-t-elle une singularité ? De manière générale, y a-t-il des différences d'approche dans cette presse selon les pays ? Historiquement, a-t-on constaté une même évolution ?
Alors,
il y a deux questions. Il y a celle de l'éditorial et il y a celle aussi du commercial. À ce niveau-là, très clairement, en France, c'est un bain de sang. C'est-à-dire que la presse papier est moribonde, soyons très clairs. Pour vous donner des chiffres, à l'époque où nous officions à PlayStation Magazine l'officiel ou à Joypad.
Dans le début des années 2000.
Voilà, PlayStation Magazine se vendait dans ses phases records à plus de 300 000 exemplaires, était lu par plus de 3 millions de personnes. Joypad oscillait entre 60 et 30 000 ventes. Mmh. Aujourd'hui, pour un Joypad, par exemple, c'est en dessous des 5 000 et plutôt près des 3 000 ventes, ce qui est quand même proche des fanzines de l'époque, quoi. C'est assez dramatique.
Ça coûte de plus en plus cher. Après, effectivement, au niveau du monde...
c'est pas le cas partout.
C'est pas du tout pareil. Voilà. Donc il y a une grosse crise de la presse papier en France. Hein, ça concerne pas uniquement les magazines de jeux vidéo, c'est valable pour plein d'autres choses. En gros, il y a que la presse People et certains féminins qui tirent vraiment bien leur épingle du jeu. En dehors de tout cela, beaucoup de secteurs de la presse spécialisée galère en France. En Angleterre, c'est encore différent.
Ça a baissé, mais c'est moins catastrophique.
Voilà. Et puis après, il y a des magazines. Alors, par exemple, dans les colonnes de Gameblog, vous entendez souvent parler de Game Informer au moins une fois par mois, qui est un très gros magazine US.
Ah là, oui.
J'ai entendu les chiffres.
On parle des abonnés.
C'est des millions d'abonnés. Voilà, c'est 3 millions. Je crois qu'il y a 3 millions et demi d'abonnés.
C'est complètement dingue. Il faut que vous le compreniez. C'est vraiment très très gros, quoi.
Maintenant, après, la population américaine, c'est pas 60 millions.
C'est sûr.
Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de personnes. Mais en contrepartie, ils ont aussi d'autres problématiques. Sont par exemple la distribution. C'est un territoire tellement énorme que distribuer un mensuel là-bas, c'est très compliqué.
Ça coûte plus cher. Forcément.
Ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus long. Voilà.
Bon, quand on en vend 3 millions avec des abonnements. C'est-à-dire la certitude que ça, c'est l'argent que vous avez dans la poche.
C'est vraiment énorme. Cela dit, c'est tout simplement pour ça qu'ils ont aussi, pratiquement à chaque numéro,
des exclus incroyables.
Ils ont des super exclus et puis surtout, ils le jouent bien entre le papier et le web. C'est ça que je trouve génial. C'est que vraiment, ils sont arrivés vraiment à faire le pont entre les deux. Ce qu'on voit pas souvent, mine de rien. À chaque fois, ça va être deux rédactions qui vont se tirer la bourre, ou enfin, tu vois, ça va être mal fait. Et là, vraiment, ils se partagent les exclus, ils arrivent à faire venir du monde sur le site et donner vraiment plus sur le magazine, etc. Donc, c'est vraiment. Ils gèrent super bien, je trouve.
Ouais.
En Allemagne aussi, la presse papier se porte pas si mal que ça.
Ouais,
en particulier, bien mieux qu'en
France. En particulier,
la
presse PC, d'ailleurs, qui a un marché assez florissant en Allemagne, le PC. Enfin, les Allemands jouent beaucoup sur PC.
Parce que tu remets le sang en rouge plus facilement, non ?
Peut-être. Non, mais c'est possible que ça ait joué, c'est pas forcément idiot.
Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, les jeux ne sont pas les mêmes que chez nous. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit au sang, donc souvent les jeux sortent avec du sang vert ou pas de sang. C'est des versions différentes, quoi. Et donc ils doivent beaucoup importer aussi
sur PC,
de
tu peux,
versions françaises ou anglaises
facilement. Mais, mais ils ont une culture micro beaucoup plus développée. Donc effectivement, oui, après, la presse papier, d'une manière globale, je crois qu'à l'échelle du monde, c'est pas non plus. Enfin, la tendance globale doit pas être
plutôt à la baisse.
Voilà,
ouais, c'est certain.
Donc, le net, c'est international. Donc, l'information est internationale. N'importe qui peut aller sur n'importe quel site. Donc forcément ça joue quoi.
Et éditorialement parlant, est-ce qu'on note des différences majeures?
Alors, ouais, il y a des secrets de Polichinelle par rapport notamment à la presse britannique et à sa façon de, d'écrire des critiques et d'attribuer des notes, qui n'est pas du tout la même qu'en France, semblerait-il, puisqu'on sait alors moi les derniers échos officieux mais venant de l'industrie donc sourcés comme quoi certaines notes pouvaient être achetées datent d'il y a pas mal d'années maintenant, mais je pense pas que ça ait changé là-bas, mais en tous les cas il était de notoriété publique, on pouvait acheter des notes chez certains magazines anglais, ce qui ne s'est jamais fait en France, à ma connaissance en tout cas.
Et en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est vrai que l'impact de l'anglais les rendant totalement internationaux, à l'image des sites internet, hein, qui ne jouent pas forcément dans la même cour que les sites français qui parlent à une audience francophone, leur permettent d'obtenir des exclusivités assez incroyables, des interviews des plus intéressantes, et donc d'avoir des magazines aussi qui sortent véritablement du lot et qui se font leaders d'opinion parce qu'ils sont à la source de l'information.
Et aussi parce qu'ils la traitent différemment. C'est vrai que la presse anglaise, elle a son, son petit défaut de... on va dire sur l'achat des notes, etc. C'est sûr que c'est, ça fait pas très envie comme ça, mais quand tu lis des magazines comme Edge ou Games, que moi j'adore et qu'on adore tous ici, t'as des vrais articles de fond, t'as des trucs un peu décalés, t'as une façon, un traitement vraiment super différent qui le rend plus complémentaire avec le web que des magazines français par exemple.
Mais Edge en fait par exemple, donc effectivement un canard très connu et très apprécié de, parce qu'il est vieux aussi et bien installé, ça vend pas tant que ça.
Non, c'est, ça vend pas, c'est un peu une vitrine.
Ça vend à l'industrie en fait.
Voilà, il y a beaucoup de professionnels qui l'achètent effectivement, qui sont abonnés.
Mais très bien, mais enfin, je veux dire, c'est agréable à lire parce que t'as vraiment des trucs différents dedans, quoi. Et surtout super joli, c'est ça aussi.
Par contre, ils nous ont toujours.
Les Anglais, ils ont toujours été balèzes.
En maquette, ils sont.
Ils font des trucs trop beaux, quoi. Et donc ça participe parce qu'évidemment, si on préfère le papier, c'est aussi parce que c'est
un bel objet.
C'est un bel objet, c'est du matérialisé. Donc c'est agréable de pouvoir les garder, les collectionner, voilà. Et dans Edge, ils font des choses quand même de manière super classe. Et dans Games aussi, qui est beaucoup plus gros.
Qui ressemble plus en fait à ça ressemble plus à ce qu'on avait ce qu'on faisait à l'époque de Joypad, plus
très
dense,
exhaustif
plus,
avec toutes les reviews et tout, et mais en même temps aussi ils font aussi des dossiers intéressants, GamesTM.
On reparlera des magazines français un petit peu originaux comme IG Magazine ou encore Amusement, et dans une autre sphère un petit peu de Pix & Love dans un prochain podcast dans les semaines à venir, où on invitera les responsables de ces magazines qui justement essayent de faire une presse de jeux vidéo différentes. Pas juste des news et des tests où là très clairement, sans se mentir, internet a quand même un peu déjà gagné la guerre.
Ça ne peut rien de faire des news déjà.
Des news et des... Et même les tests quand ils paraissent quelques semaines après ou... Nouvelle question, celle de Poison. Avec les remakes HD qui se multiplient, pensez-vous que, en dehors de toute considération commerciale, le jeu vidéo soit en train d'acquérir une valeur patrimoniale? Je dis ça en faisant référence au cinéma de patrimoine, au travail des éditeurs DVD et Blu-ray par exemple, ou des cinémathèques qui préservent et diffusent les films classiques. Étant donné que le jeu vidéo a un certain âge, il possède désormais une histoire, et ses œuvres qui sont remasterisées constituent certainement une sorte de ludothèque universelle. Pourquoi ne pas consacrer un podcast à ce sujet prochainement d'ailleurs?
On n'a pas déjà fait un podcast sur les remakes?
Sur les remakes, je ne crois pas, de mémoire.
Il n'y a que Raon qui peut comprendre une question aussi longue, non?
Non, mais moi je trouve qu'il a totalement raison. On était déjà revenu partiellement, à l'occasion de je ne sais quel podcast, sur le côté patrimoine et le fait de ressortir ces jeux qui sont finalement inaccessibles aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas forcément gardé sa NES, sa Super Nintendo, même sa PlayStation. Il faut de la place, parfois elle tombe en rade. Pouvoir en rebénéficier plus tard, avec en plus une petite amélioration visuelle, en tout cas une petite mise à jour, même si c'est jamais, on l'a vu par exemple avec BGE, le jeu reste très bon, mais c'est vrai que c'est pas, il n'a pas non plus été remodelé totalement. Ce sera le cas pour Shadow of the Colossus et ICO aussi. Mais c'est vrai que c'est agréable, ça permet, on l'espère, à des gens de les découvrir, et aux plus nostalgiques ou ceux qui aiment l'histoire du jeu vidéo de les redécouvrir pleinement.
Ouais. Alors il y a quand même une conservation en France du patrimoine du jeu vidéo en tant que tel, c'est-à-dire officiel et sanctionné par l'État. À la Bibliothèque Nationale, la BNF, c'est pas complet malheureusement parce que d'après la loi, les éditeurs doivent envoyer un exemplaire à la sortie de leur jeu matérialisé à la BNF, mais tous ne le font pas. Évidemment, il n'y a pas vraiment de budget pour faire respecter la loi à ce niveau-là, parce qu'ils ont un peu rien à foutre. Mais en tous les cas, ça existe dans les textes de loi. Donc il y a déjà légèrement, en tous les cas au niveau du ministère de la Culture, un souci de conserver effectivement les jeux vidéo qui sortent. En dehors de cela, malheureusement, j'arrive pas trop à le voir d'une manière patrimoniale parce que l'essentiel de ces remakes sortent quand même aussi en version dématérialisée. Mmh. Et mine de rien, je sais pas, moi j'associe. Pour moi, la conservation du patrimoine, c'est un objet que t'as posé sur une étagère, étiqueté avec sa date de sortie, son truc et son machin. Sur un disque dur perdu, je sais pas.
Le dématérialisé, justement, là pour le coup, c'est une super banque de données. Donc pour moi, ce serait justement le support idéal.
Exactement.
Mais alors, pas chez soi.
Tu mets tout.
Dans un truc quelque part.
Sur un serveur, estampillé, etc. Mais auquel n'importe qui aurait accès n'importe quand. Le problème, c'est que là, tous les trucs qu'on a, ils appartiennent au réseau de Sony, au réseau de Microsoft, etc. Mais ça serait bien d'avoir un truc, effectivement, officiel, entre guillemets, où tout le monde pourrait venir piocher, moyennant un prix, ou voilà quoi. Mais ce serait, pour moi, c'est l'idéal. C'est le support idéal pour avoir la conservation de.
Mais si on rêvait un petit peu et si on imaginait aller un grand service dématérialisé, alors certes, ça peut faire un petit peu peur, mais imaginons, il marche bien, il va pas mourir du jour au lendemain, même il va être pérenne, etc. Si on pouvait s'imaginer donc avoir un compte, un identifiant, entre guillemets, presque à vie, et que donc tous les jeux qu'on achèterait de manière dématérialisée, on pourrait y avoir accès éternellement, c'est-à-dire que 80 ans après, boum, je vais rejouer à mon Mr. Nuts que j'avais sur ma bibliothèque virtuelle, etc. Je le relance avec les graphismes de l'époque, puisqu'on n'aurait plus de plateforme, tout serait mis à jour de loin, quoi.
Ouais, c'est complètement virtualisé.
Moi, je trouverais ça quand même assez magique.
Ça serait génial.
Parce que là, mine de rien, quand même, la contrepartie de la chose, c'est que on les rachète. Donc ils nous font percer à la caisse.
Ah bah oui.
Et donc bon, quand on est méga nostalgique, on s'en fiche un peu, d'autant que les prix sont quand même plutôt bien contrôlés. On est les 10-15 euros, mais enfin quand même, c'est des jeux qu'on a pour la plupart déjà achetés et qu'on rachète encore avec
quand
le sourire.
Quand tu regardes les bouquins par exemple, je veux dire, aujourd'hui dans la plupart des grandes villes il y a des bibliothèques. Des gens peuvent s'inscrire à des bibliothèques et emprunter des livres, les lire sans payer des fortunes.
Mais tu changes pas d'œil. Alors qu'il faudrait que tu empruntes à la fois et le jeu et la console. C'est-à-dire que lire, tu peux lire. Tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Alors que les jeux, si les jeux Super Nintendo, si t'as pas la Super Nintendo.
Bien sûr, mais ça serait génial qu'il y ait vraiment que l'État s'en mêle, en fait. Qu'il y ait à disposition. Parce que ça fait partie de la culture, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est valable pour les films aussi, ou pour la musique. Il devrait y avoir des systèmes similaires à ceux des bibliothèques de livres pour les jeux, les films, la musique. Parce que la culture, c'est malheureusement cher, mais aussi indispensable.
Bon, vous vous réveillez maintenant, il faut sortir de ce rêve là.
Ok, d'accord.
Non, mais ça arrivera probablement un jour.
Il y a quand même deux choses différentes, hein, le remake HD et le fait d'avoir le jeu d'origine, c'est quand même deux choses différentes aussi. Hein. Oui. Moi, le fait de payer pour un remake HD, ça me choque moins, tu vois, que
de payer pour un remake virtual console.
Il y a remake et remake, c'est-à-dire que remasterisation HD et remake. C'est-à-dire que l'Ocarina of Time sera un remake, HD, enfin pas HD en l'occurrence, un remake, alors qu'un BGE n'est qu'une remasterisation HD, tout comme le sera ICO, Shadow of the Colossus.
Mais tout ça doit vraiment être distingué, moi. Enfin, je dois vraiment le distinguer pour le prix.
Allez, nouvelle question, celle de Sorrento. Comment expliquez-vous ? Et au passage, il y a eu beaucoup de questions sur les remakes HD, qui visiblement vous intéressent beaucoup. Hein. Sorrento, comment expliquez-vous le décalage entre les ventes très bonnes de jeux moyens bien marketés comme Homefront, et les ventes calamiteuses d'un très bon jeu mal marketé, comme Okami? Est-ce qu'au final, j'imagine, on achète le marketing plutôt qu'un jeu? Pensez-vous qu'en fait, à part Pokémon, Dragon Quest et Final Fantasy, en vérité, les jeux de rôle japonais, ça ne se vend pas?
Bon, y a deux trucs différents là. On va mettre les JRPG de côté peut-être.
Pour la première partie, la réponse est dans ta question.
Le marketing est fait pour faire acheter des choses. Donc ceux qui font du mauvais marketing, ça ne marche pas.
Des fois, le marketing vend des bonnes choses aussi.
Oui, bien sûr. Le marketing à la base, c'est fait pour vendre.
N'importe quoi.
On te présente un produit, comment le marketer, l'adresser au bon public. Ça, c'est le truc à la base.
Après, parfois, il y a des exceptions, hein, des jeux qui sont pas marketés ou mal marketés qui marchent quand même parce qu'ils sont vraiment très très forts et le bouche à oreille est énorme.
Le buzz,
Mais c'est vrai qu'après, quelque part.
Le random, oui.
Oui, vous plaignez pas que les jeux méga marketés marchent bien, c'est le but. Après, si vous trouvez qu'ils sont pas bons, ne les achetez pas. Laissez
le grand public les procurer.
Le truc, c'est qu'il faut pas se verser dans la paranoïa parce que, par exemple, Homefront, donc, qui est effectivement un très bon exemple, il a fait un excellent démarrage, il a touché son million très vite, etc. Mais au niveau critique et premier retour des joueurs, il a pas non plus soulevé.
Il y a eu beaucoup de retours en boutique.
Voilà,
aussi,
donc il y avait effectivement beaucoup de retours en public, donc le jeu ne vivra pas forcément très bien en ligne. Et la marque elle-même n'a pas fait un précédent hallucinant. Donc peut-être que pour la suite ça marchera pas aussi bien que ça, alors que il y a le même processus inverse.
On peut tromper 1000 personnes,
c'est ça.
Attends, c'est quoi déjà?
Non, c'est 1000 personnes 1000 fois.
C'est une fois.
Bref, donc voilà.
Homefront 2, vous ne l'achèterez pas.
Il ne faut pas croire que les gens vont faire que du marketing pour vendre de la merde.
En fait, Homefront 2 sera génial. C'est là que vous allez vous.
Mais le cas d'Homefront est particulier aussi. D'abord, c'est un FPS. Ensuite, ça parle au public américain. Enfin, il y a plein de choses aussi qu'il faut voir par rapport à ce jeu. Et il n'est pas non plus catastrophique.
Oui,
plus.
C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
C'est moyen bof.
Forgez-vous une opinion, lisez plus, Gameblog. N'attaquez pas le marketing ou les gens qui sont victimes du marketing. Pensez à vous, entre guillemets, et à vos amis. Si vous trouvez des jeux très bons, genre Okami par exemple, et bah faites en sorte qu'ils marchent mieux auprès de vos amis en, le disant, en leur disant que c'est un bon jeu. Faites le marketing viral fait par les humains, hein, par nous, est aujourd'hui quand même de plus en plus important et joue aussi à plein.
Ce qu'il faut.
Ouais, Mimique.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, enfin, ce qui fait vivre le marché du jeu vidéo, c'est vraiment le grand public, quoi. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait des courants comme ça qui partent. Enfin, c'est pas des hardcore entre guillemets. Enfin, voilà, c'est fini ce temps-là. Donc, c'est vraiment le grand public. Donc, c'est normal que le grand public soit réceptif au marketing. Enfin, c'est super logique, quoi.
Oui. Exactement. Et donc, la deuxième partie de la question, Dragon Quest, Final Fantasy, est-ce que c'est les seuls JRPG et Pokémon, c'est les seuls JRPG qui se vendent?
Oui.
Bah ouais.
Bah oui.
Il
bah,
en même temps, il y en a pas aussi, beaucoup même qui sortent, hein, donc.
C'est vrai qu'il y en a de moins en moins.
Il n'y a pas beaucoup qui sortent du lot non plus.
Et qui sortent du lot encore moins.
Et puis après, il y a un moment, il faut être réaliste aussi. C'est-à-dire qu'on imagine quels sont les autres RPG japonais auxquels tu penses. On ne dit absolument pas qu'ils ne sont pas bons. Il y en a certains qui sont même extraordinaires, mais qui sont très pointus. On ne peut pas demander non plus à chacun d'apprécier des trucs très pointus. Donc de tout temps, hein, les choses qui touchent les plus grandes sensibilités sont ceux qui marchent aussi le mieux. Voilà, la peinture méga abstraite parle moins que des œuvres plus ouvertes, plus simples à comprendre aussi.
Et puis ne pas se vendre, tout est relatif, parce que si on remonte 10 ans en arrière, un jeu qui se vendait très bien il y a 10 ans, c'est pas les mêmes chiffres qu'un jeu qui se vend très bien aujourd'hui. Donc finalement, c'est le reste qui a grandi et le JRPG en général qui lui n'a pas grandi avec, tout.
Ils vont se rebiffer un jour.
Ouais.
Je l'espère, parce qu'en termes de jeux de rôle japonais, c'est quand même un peu la grande déchouille depuis quelques temps, à quelques rares exceptions près. Allez, nouvelle question, celle de Octocom. Les jeux indépendants proposent de plus en plus un contenu qui surpasse les jeux actuels en termes d'intérêt, des idées de génie encapsulées dans un graphisme modeste. De belles leçons offertes gratuitement aux gros éditeurs qui semblent aveugles.
Oui, parce que en fait, c'est plus les développeurs qui sont dans des gros studios et qui font du blockbuster qui vont tirer des leçons et des idées de cette scène indépendante. Donc ça va stimuler le reste des créateurs aussi qui trouveront ça bien et qui sont éduqués là-dessus. Mais ils sont pas forcément moches non plus d'ailleurs, ces jeux indépendants.
C'est même parfois beaucoup plus joli en fait. Enfin, en termes artistiques ou en termes de design, d'ambiance et tout. C'est souvent plus recherché, quoi.
Et puis s'il marche, peut-être que ça donnera des idées aux éditeurs plus importants de peut-être se débrider un petit peu.
Encore faut-il qu'il y ait un jeu indépendant qui fasse des chiffres comme Call of Duty. Et ça, pour le moment, on en est loin.
Non, mais ça a surtout donné l'idée aux gros éditeurs de squatter la place des éditeurs indépendants qui sortent des jeux sur le XBLA en essayant de propulser leur petit jeu, entre guillemets, de se positionner là-dessus, quoi.
Et gros coup de cœur pour un jeu indépendant en ce moment sur iPad qui sortira sur iPhone, iPod Touch bientôt, c'est Sword and Sorcery. Ça coûte 3,99€. Au moment où on enregistre ce podcast, j'imagine que le test est déjà passé sur Gameblog, mais ce jeu est une tuerie. Donc
regardez la petite vidéo, le petit trailer.
Nouvelle question, celle de X-Man. Avec l'annonce concernant le probable futur Dead Space 3 qui se voudrait plus proche d'un Resident Evil 5 que d'un Dead Space, pensez-vous que le genre survival horror laisse doucement place à un nouveau genre qu'on pourrait appeler survival action? Moi je suis totalement d'accord, malheureusement.
C'est super bien trouvé. Tu vois Resident Evil, l'évolution, il n'y a pas photo, c'est exactement
Resident
ça.
Resident Evil 4 était déjà infiniment plus action. Resident
mais on
Evil
trouvait
5,
ça génial.
Ça. Ouais, Resident Evil était bien.
Moi j'ai trouvé Resident Evil 4 génial, mais j'ai pas trouvé que c'était un grand survival horror. Ça commençait, alors c'était pas
mais
décevant.
Dead Space 2, parce qu'on n'a pas arrêté de dire Dead Space 2, il va être trop action, et finalement tu l'as vachement aimé aussi.
Ouais. Mais justement, il y a eu une annonce en fait sur Dead Space 3, d'accord, où je ne sais plus comment il s'appelle, il a dit en gros, le succès de Resident Evil, c'est d'avoir le penchant un peu plus action, il faut qu'on s'en inspire pour Dead Space 3, blablabla. Et on peut les comprendre, ils n'ont pas vendu tant que ça sur Dead Space 2, finalement, c'est pas encore un grand carton, ils sont très confiants dans leur licence, dans leur potentiel. Ils ont beaucoup plus investi que sur le premier, et malheureusement, c'est toujours pas ça en termes de vente. Donc,
ouais, mais le problème, c'est que avec un minimum de 2 ans de développement pour chaque épisode, le temps. Effectivement, oui, en ce moment, la tendance, c'est l'action, mais dans 2 ans, ce sera peut-être le retour justement des jeux vachement sur l'ambiance, etc. Et ils seront peut-être encore à côté de la plaque. Donc, au bout d'un moment, au lieu de suivre les tendances, il faut les créer, et c'est ça qui est important quand on veut imposer des nouvelles licences et des nouvelles choses, à mon
c'est
avis.
Beau quand tu parles.
Mais en tout cas, visiblement, Resident Evil a choisi un petit peu sa... Resident Evil a choisi sa voie. En tout cas, si on en croit ce qu'on a pu découvrir sur Opération Raccoon City,
hein. Ah ouais.
Clairement plus action et multijoueur, même si, attention, il ne s'agit pas du Resident Evil 6, qui peut-être lui reviendra un peu plus à l'origine
non,
du
là,
sang
il voulait
volant.
Faire un Left 4 Dead la plus.
C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée.
Mais c'est très bien.
Mais peut-être qu'on sera surpris par le nouveau Silent Hill, qui franchement m'a l'air assez prometteur. On n'a pas vu encore énormément de choses, mais
non,
ce
mais
qu'on
ce
a
qu'ils
vu,
ont montré, ouais.
Donne pour.
Ça donne très envie, parce que c'est vrai que des fois ça fait du bien aussi quand ils arrivent à donner un nouveau souffle au truc. Et là, ils gardent quand même un sentiment. C'est très sombre, c'est.
Oppressant.
Ça a l'air flippant, ouais, ça a l'air oppressant.
À suivre, mais c'est vrai que globalement, c'est plus survival action en ce moment, hein, clairement. Nouvelle question, celle de Dark Chaos. La dernière manette Xbox avec des pads Transformers, comme ils l'appellent, est-ce que quelqu'un l'a testé? Eh bien oui, on l'a à la rédaction depuis quelques jours, semaines, même maintenant.
Ouais.
Raon, qu'est-ce que tu en penses?
Alors moi, je la trouve de toute façon mieux que la manette de base.
Expliquons sa spécificité,
oui.
Pour ceux qui
l'ignorent. Sa principale spécificité, en dehors de sa couleur gris argentée, cette nouvelle robe, etc., c'est une croix digitale qui peut se tourner pour avoir adopter deux positions, l'une avec les quatre directions vraiment très saillantes sur la croix, et l'autre plus traditionnelle, on va
plus
dire
plate,
plus,
ouais.
Voilà.
Le disque actuel, quoi.
Ouais, alors bon, le enfin, pour moi, je trouve, enfin, personnellement, le fait qu'elle soit en haut ou en bas, c'est pas ça le plus important, c'est surtout que le pivot en dessous et le mécanisme est quand même de bien meilleure qualité.
Oui.
Quand on est dans les menus, ou généralement avec une manette Xbox habituelle, bah
t'appuies à droite et ça va en haut.
C'est ça, voilà. Ouais. Là, franchement, ça se produit plus.
Non, ça se produit plus.
Ça, c'est agréable. Par contre, certaines petites détails qui, moi, m'ont. Voilà, c'est que. Alors, elle est vachement plus sobre, hein, elle est grise et noire, comme tu le disais, mais même les touches, les boutons.
C'est des nuances de gris.
Du coup, couleur, ouais. À l'image, ouais. Et alors, je sais pas pour vous, mais alors, pourtant, je joue quasiment exclusivement sur Xbox.
Ah, c'est
j'arrive pas bien retenir où ils sont, et vachement les codes couleurs, vachement plus. Par exemple, quand ils me mettent B, je sais pas trop. Par contre, rouge, ouais, je sais où c'est. Et là, elles sont noires.
Mais c'est
gris,
ta mémoire
gris,
qui fonctionne
noir.
Comme ça. Ouais.
Ouais, ouais.
Voilà.
Moi, ma mémoire, elle, de toute façon, elle a mergé.
Elle
les
est merdique.
Elle a mergé les deux. Pour moi, B, d'accord. C'est rouge, A, c'est vert, ouais. Y, c'est
et
jaune, etc.
Et l'autre point aussi, c'est que sur
les
sticks analogiques, ils sont creusés comme sur Xbox traditionnel. Mais au lieu d'être creusés arrondis, ils sont creusés en
conique,
et je trouve ça plus agressif entre guillemets au doigt, au pouce, et donc un petit peu moins agréable, même si c'est
moi je l'avais
aussi
même
une
pas
question d'habitude,
en fait.
Mais
perso je l'avais même pas remarqué.
Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement j'ai regardé, c'est vrai, mais j'ai pas ressenti la différence. Par contre la différence sur la croix, moi je l'ai ressenti.
Vous aurez compris que
on l'a pas forcément testé dans des conditions extrêmes, genre du street toute la journée.
Mais
sur
non, mais voilà, mais
digital,
avec street, enfin je sais pas vous, mais du coup moi je joue avec le stick analogique dans Street, ce qui est quand même hallucinant quand il pense. Et donc là, peut-être avec une manette comme ça, vu qu'elle est plus précise sur la croix, je sais pas ce que t'en penses, Mimic.
Moi, je me demandais si vous l'aviez jeté par terre, voir si elle était plus solide ou pas.
Non, pas encore.
Non, vous avez pas.
Pourquoi elle est pas solide?
J'en sais rien, moi. Ah bon, je sais pas, je demande. C'est une question importante. La plupart des gamers balancent leur manette.
D'accord. Moi, jamais, sauf quand j'ai testé.
Need for Speed Shift.
Shift 2, pardon.
Effectivement. Bon, en tout cas, vous aurez compris que globalement,
c'est mieux.
Il y a des, voilà, il y a des petites améliorations. Allez, nouvelle question, celle de Reince Vent, avec un S.
Il rince le vent.
Voilà. Les vents.
Les vents, d'ailleurs.
À la sortie des consoles next-gen, le prix des jeux a augmenté pour atteindre les 70€, tout du moins en Europe. On nous disait à l'époque que c'était le temps de rentabiliser le coût de la HD. Quelle est la différence entre un jeu HD et un jeu plus classique comme sur PS2? Les textures sont-elles si chères à faire?
Ah bah oui. Oui. Tout est plus cher à faire. On passe plus de temps à modéliser des personnages parce qu'il y a plus de polygones et qui sont plus détaillés. On passe plus de temps à écrire des moteurs 3D qui doivent animer tous ces trucs-là. On passe plus de temps à les texturer.
Tout est plus complexe.
Voilà, C'est exactement pareil.
Cela dit, est-ce que c'est ça qui justifie le prix à 70 euros ?
Absolument pas. Je pense pas. Enfin, c'est pas vraiment, parce que de toute façon, 70 euros, c'est un prix.
Maximum déjà.
Voilà. Déjà, c'est max. Hein, là, vous pouvez quand même vraiment trouver vos jeux facilement.
Franchement,
moins cher que ça.
Allez sur gameblog.fr. Suivez nos liens commerciaux.
Qui achète vraiment ces jeux à 70 euros ? Je sais pas, mais moi personnellement, les derniers jeux que j'ai achetés dans le commerce, hein, comme tout un chacun, je les ai pas du tout payés 70 euros. Et c'était même certains des collectors.
Ben bah, ouais,
moi moins cher.
Là, tu parles d'Alan Wake, non ?
Par exemple,
pas cher du tout.
Mais il était à 60 euros, je crois, l'édition collector.
Je l'ai eu à 65, je crois. Mais si collector. Donc la normale était moins chère.
Si tu vas dans une boutique, quand même une vraie boutique, et à la sortie d'un jeu, etc., il sera au prix à ce prix-là, 69 euros, etc. C'est quand même sur le net.
Mais tu vas sur le net à la sortie d'un jeu et tu les as 56, 62, et quelques semaines après, tu les as vachement moins cher. Après, faut pas oublier aussi une chose, c'est que on dit là globalement, donc la question est orientée du côté développeur et
c'est ça, c'est que 70 euros, c'est un prix utilisateur final.
Ah, voilà.
Et le développeur touche pas une grosse cote part de cette augmentation.
Voilà. L'éditeur, non.
Donc le développeur, on va dire que le vent dans le dos, il touche 20% de ça, même pas. Donc c'est pas le coût du développement qui justifie tant que ça l'augmentation du prix, a priori.
Et les commerçants, en tout cas les boutiques physiques, rognent très peu leur marge. Très peu leur marge. Ils pourraient aussi faire des efforts. On sait que parfois ça peut monter à quasiment 50% du prix quand même.
Il y a un autre truc qu'il faut bien voir aussi chez nous, c'est que on a la TVA là-dedans. Et c'est quand même 19,6% du prix. Donc c'est quand même beaucoup.
Mais comme on vous le dit, il y a énormément de moyens légaux d'obtenir ces jeux et même les jeux récents à des prix inférieurs à ça. Franchement, regardez bien et surtout, on ne cesse d'entendre, et on est les premiers à vous le dire, qu'il y a énormément de jeux qui sortent et que c'est difficile de tous les faire ensemble. Achetez-vous, ne serait-ce qu'un jeu par mois, laissez passer un peu de temps, finissez-le. Vous verrez qu'un mois après la sortie des gros jeux, les prix sont fracassés.
Et ça va très très vite. Ouais,
très très vite.
Moi, j'ai vu des trucs sur Bayonetta où des sorties à 76 euros et puis la semaine d'après c'était à 60 euros. Enfin, tu vois, donc ça va hyper vite.
Puis il y a les retours d'occasion.
Ouais aussi, ouais.
Ce marché-là, ça peut même vous éviter, ça peut même vous éviter de finalement craquer pour un jeu que finalement vous n'auriez peut-être pas acheté si vous aviez eu un peu plus de temps pour digérer sa sortie, quoi.
Exactement.
Ça peut arriver.
Puis il faut pas oublier quand même qu'il y a 20 ans, on faisait des jeux à 1, 2, 3, 4 personnes sur les consoles de salon. Aujourd'hui, ça peut monter à 400, 600 personnes. Ces gens-là sont généralement des gens quand même très talentueux qui donc coûtent un peu d'argent. 600 fois quelques milliers d'euros
pendant deux ans.
Voilà, ça coûte très cher quand même les jeux à faire. Et à vendre. Et à acheter. Allez, nouvelle question. Dilf95. Pourquoi les jeux deviennent de plus en plus faciles ? Je prends par exemple le fait que Street Fighter 4 3D Edition est devenu facile. Même mon frère de 5 ans y arrive à jouer grâce aux attaques spéciales qui peuvent être effectuées par l'écran tactile.
Bah voilà.
Et alors ?
Tant mieux. L'exemple est pas le bon. Enfin,
non, mais en plus,
c'est pas le bon exemple, puisque sur Street, tu joues généralement, tu joues pas trop pour jouer contre la machine, tu joues pour jouer contre d'autres gens. Je pense pas que ce soit l'exemple le plus pertinent.
Et d'autant que tu peux le mettre ou ne pas l'activer, ce mode-là. Hein.
Ah oui, tu peux choisir de jouer avec des
aides. Tu peux même ne pas l'utiliser. Hein. Même s'il est là, t'es pas obligé d'utiliser cet écran-là. Donc, le jeu choisi est pas le bon. Mais sinon, c'est le grand public. Oui, je pense qu'il faut aussi rendre les jeux un peu plus accessibles.
Mais alors voilà, mais toute la différence est là. C'est qu'un jeu accessible, c'est pas forcément un jeu facile.
C'est ce que j'allais dire. Tout à fait, voilà. Ouais. On est d'accord, le distinguo effectivement n'est pas encore très clair sur certains types de jeux. Quoi.
Il a quand même, en venir dans sa question, c'est vrai que le niveau de difficulté a chuté depuis certaines années, et c'est vrai que quand il pense et tu te remets dans notre mode de pensée de l'époque, la difficulté c'était une qualité pour un jeu. La durée de vie, le fait que tu n'arrives pas tout de suite, qu'il faut recommencer, que donc c'est un challenge, c'était une qualité, c'est-à-dire on le jugeait au chapitre des qualités vraiment, et aujourd'hui, la difficulté, quand c'est ne serait-ce qu'un peu mal dosé, etc., c'est un vrai défaut dans un jeu.
Mais il y a plusieurs types de difficultés aussi.
Ça a changé, mais je dis, même dans nos mentalités à nous, qui sommes
bien sûr,
des gamers, quoi. Mais on n'appréhende plus de la même manière la difficulté.
À l'époque, c'était une difficulté de 1, apprendre le jeu par cœur, et 2, d'exécution. Il fallait de la dextérité, en fait, pour jouer. Et aujourd'hui, on continue d'apprécier la difficulté, par exemple, dans des puzzles ou des bonnes énigmes, des bonnes choses qui nous font buter et qu'après, on est ravis de trouver la solution, mais plus de devoir passer 1000 ans à exécuter quelque chose qu'on a compris.
C'est marrant
ans.
Parce que ça change très vite. Je me suis. Pardon. Je suis en case
une. Ce sera après. T'inquiète.
Vous vous rappelez dans le. C'était dans Zelda. C'était Ocarina of Time. Quand ils ont expliqué en fait que.
Le saut automatique.
Voilà, il n'y a plus de bouton pour sauter. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens dans Zelda de te faire millimétrer un saut. Donc en fait, quand tu marches vers le précipice, tu sautes de l'autre côté automatiquement. Et à l'époque, on avait trouvé ça bizarre. On en avait parlé. Puis on s'était dit, ah pourquoi pas.
Il y avait une petite levée bouclier.
Rappelle-toi plus récemment, le Prince of Persia, que moi j'ai adoré. Peu de gens ont aimé finalement.
Oui.
Je me sens seul au monde encore une fois. qui était superbe graphiquement et qui avait complètement éliminé le game over. Pas de game over.
Mais je tenais quand même à souligner une chose aussi, c'est que avant la difficulté, c'était que finir un jeu, il y avait pour beaucoup de jeux, et si on parle du passé, il n'y avait pas de sauvegarde, il y avait des continues, un système de continues, donc on mourait, donc effectivement la durée de vie aussi des jeux était plus longue parce qu'il fallait recommencer à zéro, etc. Alors que maintenant on sauvegarde à tout va, donc forcément c'est un peu plus simple, en tout cas pour finir le jeu. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, quasiment l'intégralité des jeux propose différents modes de difficulté, et qu'effectivement le mode normal d'aujourd'hui serait plutôt le mode easy d'hier. Mais mettez-vous en mode vétéran ou en mode difficile et vous allez retrouver une difficulté des plus correctes en tout cas. Donc moi, ce que j'inviterais, c'est les personnes qui jugent que la difficulté dans le jeu vidéo a baissé, commencez directement non pas en mode normal mais en mode un petit peu plus complexe et vous verrez que quand même vous allez retrouver des vrais challenges. Je trouve ça assez faux de déclarer qu'aujourd'hui le jeu c'est facile, point. Il y a encore vraiment des jeux sur c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est plus facile à prendre en main, c'est vrai que c'est mieux réglé aussi, c'est moins frustrant surtout.
Il y a la consommation à l'extrême aussi. Enfin, je veux dire, les gens, on est dans une société, enfin, plus ça avance, plus on consomme, et ceci rapidement. Donc, du coup, tu te retrouves avec, faut que les jeux soient fun tout de suite, et puis qu'on en arrive au bout assez rapidement. T'as pas forcément le temps de t'investir autant qu'à l'époque. Hein, et les acheteurs sont plus vraiment les mêmes non plus qu'il y a 15 ans.
On était des gamins, aujourd'hui on est des adultes, et mine de rien, c'est le cœur du marché, c'est nous qui avons grandi. Et
quand t'es gamin et que t'as. Du mercredi après les cours à 13h jusqu'à 19h tu peux jouer à gogo alors que maintenant ça c'est le temps de jeu d'un adulte sur 3 semaines t'as aussi un peu envie d'avancer quoi tu n'as rien fait à part sauter un niveau.
Puis ceux qui ont besoin de challenge ils peuvent se retrouver aussi dans les jeux en ligne aujourd'hui avec des adversaires humains. C'est aussi une part qui n'existait pas autant à
l'époque. Puis il reste des jeux hardcore aussi quand même.
Ouais, n'importe
où, en fait. Il y en a pour tout le monde mais ça c'est pas un
souci. Allez, nouvelle question d'une personne dont le pseudo est, je suis désolé, c'est imprononçable. Je crois qu'on a déjà posé la question.
C'est Antoine.
Parce que c'est 4N70.
Lespine.
Voilà, très bien.
Et j'arrive à lire ça maintenant.
Tu es fantastique.
Alors, dans la matrice.
Le désert ludique est sur Wii, c'est y pas scandaleux. Où qu'ils sont passés les tiers, donc les éditeurs tiers, leur comportement n'a-t-il pas été minable avec cette console? Nintendo prétend avoir des jeux à annoncer sur la Wii, mais lesquels? Vous devez bien avoir une petite idée sur le sujet, non?
Bien sûr, on connaît les 10 jeux Wii qui vont sortir d'ici Noël et qui vont casser la baraque.
Non, mais quand il dit où sont passés les éditeurs tiers, j'ai envie de te dire.
Ils sont barrés sur l'App Store.
mais entre autres, et sur PlayStation 3 et sur Xbox 360, il ne a pas, à l'exception de quelques-uns, on l'a vu très dernièrement avec Ubisoft qui a fait un joli carton avec Just Dance ou avec Michael Jackson. Mais ils ne vendent plus. Les Nintendo qui vend. Alors il y a un moment, les idées tortières, pourquoi ils investiraient sur une machine sur laquelle qui est réservée finalement à Nintendo?
Regarde le lancement de la 3DS, Nintendo a laissé un boulevard aux éditeurs tiers justement pour essayer de régler ce problème, donc ils n'ont pas sorti de killer app dès le lancement pour que Ubisoft et les autres puissent vendre leur jeu de lancement.
Donc Antoine Lespine.
Mais en plus c'est pas vrai que c'est un vrai désert ludique. Des fois on en fait trop. Il y a des bons jeux sur Wii.
Oui mais c'est vrai.
Ça sort régulièrement. C'est pas très rapproché mais c'est assez régulier quoi. On a quand même quelques fulgurances 3-4 fois dans l'année avec des bons titres quoi. Voilà. Et aujourd'hui elle est en fin de vie donc.
Allez, nouvelle question, celle de Petit Vert et après dans deux questions nous allons accueillir Mr P.
Il dit non, c'est
eh bien,
pas
alors assis-toi. Assis-toi, nous allons faire. Parce que Mr. P a la chance incroyable de lui pouvoir partir en vacances. Donc.
D'avoir un avion à prendre.
Très bien. Alors, nous allons revenir sur certaines questions après jeux vidéo, mais tout d'abord quelques questions avant que Mr. P parte. Sur Gameblog, donc. Et donc, Mister la technique. Part. Alors, forcément, ça chamboule tout. Donc, il faut les retrouver. Une question de Yobi. J'ai une question technique pour Mr. P. Sur iPhone, comme beaucoup, j'ai créé une icône Gameblog qui me donne accès direct à Gameblog version mobile. Jusque-là, tout va bien, mais une fois sur Gameblog mobile, je suis obligé de cliquer sur « Accéder à la version standard du site » pour pouvoir linker vos articles sur Facebook ou Twitter. Je suis super d'accord. Donc ma question, est-il possible de créer un raccourci de partage Facebook sur la version mobile de chaque article, comme tout le font des applis comme l'équipe ou 20 minutes ?
Tout à fait, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Il suffit simplement, pour ne pas l'oublier, ce genre de choses-là, c'est bien de demander aussi sur le forum, dans les suggestions, comme ça il y a un petit...
Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette zone-là ?
Dans le forum Gameblog, oui, Gameblog le site, et il y a un topic qui s'appelle
Boîte à idées.
Boîte à idées, oui, tout à fait. D'accord. Comme ça, on recense et on oublie.
N'hésitez pas à mettre vos idées dans la boîte à idées.
Exactement, comme ça, Mr. P regarde. Alors, on vous dit pas que ce sera fait dans l'instant, hein. Il y a beaucoup de choses, il est très occupé, Mr. P, mais au moins, ce sera un peu plus clair dans nos têtes.
Donc, pour ça, pas de problème.
Nouvelle question, Erwan, de Erwan. Voici une petite idée pour l'évolution du site. Serait-il possible de donner aux gameblogueurs les moyens de créer et de poster des podcasts perso et ou de la communauté de gameblog, ou alors lancer un système de chat vocal entre gameblogueurs avec les soirées à thème ?
Oula, mais qu'est-ce qu'il demande, lui, vraiment ? Il veut des soirées à thème avec
Il veut surtout qu'il puisse avoir un petit système pour faire des podcasts. Ouais.
Ça me paraît difficile, ça, quand même, hein.
C'est-à-dire que éventuellement il peut y avoir un système pour balancer des MP3 et les héberger, mais on peut pas vous permettre à vous de brancher des micros sur votre PC voilà.
Ça va être difficile.
Dans l'absolu, de toute façon, tu peux déjà poster du MP3 si tu veux.
Bien sûr. Il y en a d'ailleurs plein qui le font déjà.
Le chat vocal, en revanche, je sais pas. Nous, on va pas faire une plateforme.
Mais si l'idée, c'est qu'il fasse un podcast et qu'il le mette sur son blog, il y a rien de plus simple.
Renseigne-toi. Il y a plein de sites qui te permettent d'enregistrer des MP3 et de les publier.
Ça te crée un petit player que tu embed ensuite dans un post de ton blog. Voilà.
À ce niveau-là, on risque de ne pas faire grand-chose dans l'immédiat à ce sujet. Question de Eclipse. Pourrait-on voir apparaître un chan ou un système de chat direct avec ses amis gameblogiens plutôt que de passer par les MP classiques, ce qui est un peu trop rigide ?
On avait une envie de shootbox dans les cartons, qui est toujours dans les cartons. Donc elle existe encore et donc elle arrive.
Une boîte à crier,
c'est une sorte de chat, voilà, où tu balances un truc comme ça.
Un mini chat, effectivement.
Moi, je trouvais ça super.
Ouais.
Perso.
Effectivement, c'est.
Je
passe
mes trucs.
Oui, t'as raison.
Poufy aussi, regarde, bouge la caméra.
Oui.
Je vais parce que l'instantanéité du dialogue est quand même vachement mieux que.
Bien sûr.
On peut faire plein de choses super avec les MP, mais pouvoir dialoguer comme ça sur un événement. Je sais pas, il y a un match de foot.
Le MP, c'est privé, comme en fois. Si on veut faire des chats privés, ça, c'est encore une fois pas tellement.
Non, c'est vraiment du public.
Effectivement, sur les topics, c'est un petit peu bourrin, les dialogues. Il y en a qui font.
De toute façon, il y a plein de choses au niveau communauté qu'on doit accentuer, remanier, etc. prochainement. Donc, ces idées-là, on les garde. Hein, on les a. Tous ces trucs-là, c'est dans des tonnes de documents et de machins qu'on garde
dans la boîte à idées,
les fameux cartons ou la boîte à idées, et elles reviennent donc régulièrement. On les ignore jamais complètement. C'est juste que malheureusement
un chat live, ce serait super.
Ouais, ça serait génial. Ça serait
peut-être
génial.
Un jour sur Gameblog, voilà.
Même fort probablement. Ça arrivera fort probablement.
Nouvelle question. Alu21. À quand la possibilité d'établir un top 3 de nos jeux, de comparer ce classement avec celui des autres membres?
Super pour aussi.
C'est comme les groupes et tout ça.
Oui, c'est pas comme les groupes, non.
Enfin, c'est ça fait partie des choses qu'on peut faire.
Pouvoir créer ses tops, quoi. Ouais. Top 3, 10, 1000, ce qu'on branle. Ces
listes.
Oui. Les listes, c'est pas dans un immédiat proche ni même lointain, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs avant. Donc les groupes seront là bien avant des listes. Mais
on a une date pour ça ?
Non, on n'a pas du tout de date. Non.
C'est bien, on se fait une réunion technique en direct, c'est la classe.
En 2011
When it's done et when on a le temps. Fais
attention, il y en a qui sont morts en disant ça.
Ah oui, oui. On travaille un peu à la Duke Nukem Forever.
Oh là là,
on nous l'a bien.
Oh putain.
mais tu vois, les groupes, j'ai très envie de les faire, par exemple.
Ah bah oui, à chaque fois. Très bien, les groupes. On rappelle ce que c'est, hein. Ouais. Ce serait de pouvoir permettre aux membres qui ont des blogs, etc., de faire des regroupements de blogs.
Ah non, mais juste des groupes d'amis plus ou moins intelligents qui te permettraient de gérer un petit peu.
Mais aussi de blogs.
Pourquoi de blog ?
Sur des thématiques.
Ah oui, mais c'est
ça,
sur
le manga.
Du tout.
Non, ce serait pas géré pareil, en fait. Ça serait effectivement des catégories de blogs. Le groupe, c'est le concept social du truc, comme il peut y en avoir sur Facebook, en fait. Des groupes de personnes qui ont, par exemple, des intérêts communs et qui décident de faire le groupe. On joue à Rift tous les vendredis soirs, par exemple, ou la guilde machin, le clan Trucmuche.
Avec des simplifications pour envoyer un message à tout le monde du groupe.
Voilà, avoir son petit calendrier.
Et des catégories de blog.
Ah, les catégories de blogs aussi, c'est prévu dans les.
Ça me paraît tellement mieux, ça.
De toute façon, les blogs vont.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ça n'a rien à voir, oui, mais les blogs vont être un peu remaniés, de toute façon, que pareil, quand on aura le temps.
D'accord, toujours ça. Bon. Et les tops, parce que c'est la question quand même.
Bah, donc la question des tops. Après tout ça, oui, on pourra faire des tops éventuellement, mais comme c'était pas trop la finalité du site à la base.
Oui. Ah bah ça fait partie du communautaire quand même.
Oui, oui, mais bon, c'est.
Les tops, c'est la vie. Donc peut-être.
Moi je préfère les enlever les tops, perso.
T'inquiète pas, je répéterai les choses. Je répéterai.
Non, non. On mettra des boules caisses alors si tu répètes trop.
J'enlèverai les boules caisses.
Mika Dotwix. Étant un actif sur mon blog, j'ai constaté à l'usage quelques petites choses qui, je pense, pourraient améliorer la mise à jour des blogs. Premièrement, la possibilité d'uploader plusieurs images en une seule manipulation.
Ah oui.
Ouais, mais pas tellement, en fait. Parce qu'il y a plusieurs problèmes techniques qui font que c'est délicat.
C'est compliqué.
Déjà, la taille limite des images à gérer, la taille limite des uploads, sauf si on commence à passer à des systèmes beaucoup plus complexes d'upload en flash et autres que j'ai pas... Enfin, que... Ils sont un peu... Dans notre structure actuelle, pas... idéaux à mettre en place. Et donc pour respecter les quotas, les générations et tout, l'upload de plusieurs images, ça risquerait de mettre enfin voilà, techniquement c'est pas très bon pour
bon
trop de monde. On n'a pas la capacité physique de gérer des gens qui uploadent 10 images dans le même temps. S'il y en a plein qui s'y mettent, tu vois, ça va...
Il faut que vous soyez encore plus nombreux, ouais, en gros.
On n'a pas des grosses coronets, ça c'est
voilà.
Ça.
Il faut que Gameblog devienne rentable. Abonnez-vous premium, mine de rien. Non mais c'est bah, tout con, hein, mais ce genre de choses peuvent améliorer la vie de tous les jours de plein d'autres trucs, finalement.
D'ailleurs...
Mais on reparlera des premiums dans quelques instants. Permettre une sauvegarde temporaire. Combien de fois, en faisant une manipulation malheureuse, j'ai définitivement effacé le post que j'étais en train de rédiger? Visiblement, tu n'es pas le seul, parce que c'est très fréquemment dans les statuts.
C'est un grand classique, ça dépend des navigateurs, hein, ceci dit, mais c'est la black bête, effectivement, quand tu changes de page alors que tu étais en train d'éditer. Il y a plusieurs navigateurs, quand tu reviens en arrière, bah, t'as plus le contenu de...
Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un problème qu'on n'a pas, nous, sur Safari, là.
Ça dépend des navigateurs. Donc oui, c'est effectivement une bonne idée d'avoir...
C'est à cause de la navigation par onglet. C'est ça que tu es en train de dire, non?
Pas du tout.
C'est quand tu as un onglet qui est déjà ouvert?
Je suis absolument pas en train de dire ça, je dis juste qu'il y a des navigateurs qui sauvegardent le contenu des champs en cours d'édition dans une page et d'autres non. C'est tout.
D'accord.
Non,
mais comment est-ce que les gens effacent leur contenu alors?
Ils changent de page,
ils cliquent sur un lien, ils font une fausse manip et en fait, au moment où ils étaient en train d'écrire,
tu passes ta souris, tu cliques et tu fais Ah,
accident bête. C'est une blague classique. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une petite sauvegarde toutes les 5 minutes ou un truc comme ça, histoire de faire un petit brouillon dans un coin. Oui.
Sinon, si vous vous lancez dans un gros post de blog ou un gros test ou un
sauvegarde régulièrement.
Voilà, ou écrivez-le dans un petit truc de texte, un texte édit ou à côté.
Sauvegarder régulièrement, c'est bien. C'est pour ça qu'il y a un mode privé.
Et dernière question de Migado Twix. Limiter le nombre de posts simultanés dans le fil d'actu. Pour éviter que les gens qui balancent, genre, j'imagine, genre 3-4 blocs d'affilée.
Il
faut glisser les autres dans l'actu. Dans
une sorte de mesure anti-spam, quoi.
Oui, on pourrait effectivement n'afficher que un ou deux posts par personne dans un listing, dans le listing des derniers, oui. On pourrait.
Ça, c'est faisable.
C'est faisable.
Monsieur P a dit c'est faisable.
Voilà.
Bon, en même temps, il dit rarement c'est pas possible.
Je crois que c'est tout.
Il veut dire dans un laps de temps, pas trop.
Ah oui, je sais.
Eh bien, écoute, je crois que tu vas pouvoir partir en vacances parce que je crois que c'est tout.
Yay.
Voilà.
Voilà, tu es libéré, Mr. P.
C'est bien, c'est gentil.
You're excused.
Voilà.
Je te serre la main aussi.
Oui, vas-y.
Eh bien, à dans deux. Ah bah non. Ah bah non, parce que à un moment où les gens sont en train de nous écouter, tu es déjà revenu. Donc c'est ça.
C'est la magie.
Compression du temps. C'est super parce que les gens vont se poser des questions, quoi. Mais non, pas du tout. Tu es déjà là.
Mr. P était en vacances. Hein, voilà. C'était pas trop court.
Voilà. À bientôt, bonnes vacances.
À ciao.
Donc on revient pour deux dernières petites questions jeux vidéo et après on repartira sur des questions concernant le site. Donc c'était Petit Vert, je crois. Voici sa question.
Petit Vert, je crois.
Dans son nom.
Ah bah ça fait du bien, hein, merci. Une news annonçait récemment que le prix des kits de développement 360 allait baisser tandis que leurs caractéristiques techniques devaient augmenter. Ceci afin de faciliter le développement de jeux. Cela aura-t-il un impact sur le prix des jeux, une baisse donc, ou le statu quo sera-t-il maintenu à ce niveau?
Le statu quo sera statu maintenu, quo à maintenu à ce niveau. Alors.
C'est pour faciliter la vie des développeurs, pas forcément pour leur faire gagner moins de sous. Ou peut-être même pour optimiser le fait qu'ils puissent gagner un peu plus de sous pour des plus
chaîne,
petits développeurs.
Ouais.
Donc c'est plutôt bien. Donc oui, à ce niveau-là...
Non mais ça fera pas baisser le prix des jeux, c'est sûr.
Non.
Mais ça pourra par contre permettre probablement de donner une durée de vie à la Xbox 360 plus longue. On se rappelle qu'à la sortie de la Xbox 360, la Xbox, elle est morte le jour où la 360 est sortie. Hein. Il n'y avait plus rien, c'était fini. Alors que la PS2 et la PS1 n'ont pas du tout connu ça. Il est possible que la 360, justement, soit plus accompagnée, même après la sortie d'une Xbox 720.
Et puis ça permettra à certains développeurs qui ne peuvent pas le faire pour le moment, effectivement, de sortir leur jeu sur 360.
Voilà. Question de fans de jeux. Depuis quelques années, des vidéotesteurs amateurs fleurissent sur la toile.
Tiens, tiens, tiens.
Certains se diversifient totalement et leurs vidéos deviennent très connues. Je pense par exemple aux joueurs du grenier, à Bibi300, à Hooper11, à Ken Bogart ou à l'émission de 88 miles à l'heure. Tous présentent le jeu vidéo autrement. Que pensez-vous de ce boom des vidéos amateurs consacrées aux jeux vidéo? Pensez-vous à l'avenir consacrer un podcast à ce sujet en invitant certains de ces acteurs? Bah, très honnêtement,
oui.
Deux, ils nous font marrer pour la plupart, essentiellement pour moi, hein, le joueur du grenier dont je suis absolument fan, Hooper qui m'amuse pas mal, Ken Bogart dont je suis assez impressionné par sa...
Ah, oui.
Même si j'y comprends pas tout, parce que je suis pas un spécialiste de baston, mais franchement je l'ai vu et je l'ai découvert un peu avant parce que j'avais pas mal de potes, mais je l'ai vraiment pu l'écouter en live avec Mimic.
Oui, parce que c'est ça qui est super fort, c'est que soit en live ou tu s'enregistres, c'est pareil.
Ouais, c'est impressionnant.
C'est un sport en fait. Hein. Quand tu le vois effectivement en face de toi et qu'il improvise et que ça sort comme ça et que c'est effectivement ce qui se passe dans le jeu, etc. C'est vrai que c'est une discipline à part entière.
C'est vraiment cool. Voilà. Donc, oui, alors après, c'est pas très facile, très honnêtement, parce que ces personnes-là le font en amateur. Que vous le savez, Gameblog n'a pas des finances incroyables. Que la plupart sont dans le sud ou en tout cas pas parisiens. Que du coup, si on veut les faire monter et tout, malheureusement, on va pas pouvoir prendre à notre charge les déplacements, les trains, les TGV, etc. Donc, on va essayer de le faire. Très honnêtement, même c'est déjà en marche pour certains, parce que nous ça nous ferait vraiment plaisir et parce qu'effectivement on apprécie vraiment leur boulot, donc à suivre. Mais oui, on les regarde, même d'ailleurs, et Poufy d'ailleurs a été l'un des premiers à le faire, mettait en valeur dans son blog certaines de ses vidéos pour les continuer à les partager, à les faire connaître au plus grand nombre, parce que certains comme le joueur du grenier font des gros cartons gigantesques, d'autres sont un peu moins connus mais pourtant font des choses de qualité, donc et comme d'hab, toutes les personnes passionnées par le jeu vidéo et qui se bougent pour l'exprimer avec leur ton et voilà, on trouve ça très chouette à Gameblog.
Yep.
Voilà, allez, on va conclure ce podcast donc avec les dernières petites questions concernant la vie du site de Gameblog.fr. Et donc on commence par la question de Zarkov. Que se passerait-il si vous ne respectiez pas un NDA, donc c'est le non-disclosure agreement, simple boycott ou conséquences judiciaires? Une anecdote à ce sujet?
Alors ça dépend pour qui. Si Mimic. Moi par exemple je fais une erreur comme ça, Raon me tue. C'est simple. Alors ça c'est à mon niveau. Voilà. Après je te laisse répondre pour le
niveau de Raon. Il y a quelqu'un qui le tue juste derrière.
Non, bah, notre, à
non
notre
mais
niveau,
c'est et juridique ouais. Et politique.
Il y a de fortes chances pour que... Enfin, ça dépend du jeu, ça dépend du NDA. Évidemment, il y a des enjeux plus ou moins importants suivant les éditeurs, suivant les jeux, suivant les NDA qu'on a signés.
Rappelons quand même juste un tout petit peu ce qu'est le NDA.
Alors
pour
le NDA,
ceux qui
donc effectivement,
non-disclosure
agreement, c'est donc un accord passé avec un éditeur ou un développeur, plus souvent un éditeur, qui nous permet d'avoir accès à certaines informations ou à des jeux, d'y jouer en amont, etc. En échange de la promesse qu'on n'en parlera pas avant une certaine date. Voilà, en gros,
qui est en général fixé pour tous les médias à la même date, même heure, pour qu'il n'y ait pas de jaloux et que les gens publient.
Parce que c'est très précis, hein. Généralement il y a jour et heure.
T'as aussi des exclus par rapport à ça aussi.
Il peut y avoir des exclus.
Et puis t'en as un qui lui a une exclu particulière et tout le reste est logé à la même enseigne et lui peut en parler.
Ça peut effectivement arriver.
Ça arrive.
Donc c'est une pratique effectivement qui est très très courante dans le milieu, hein, qui est normale en fait. Quand on creuse dedans, on va pas rentrer trop dans les détails de pourquoi ça existe et comment c'est fait.
Bah, ça a quand même largement commencé avec le web en fait.
Oui.
C'est-à-dire que quand les gens qui éditaient les magazines se sont rendus compte que toutes leurs exclus ou toutes les choses qu'ils faisaient à l'étranger, les voyages, etc.
sortaient un mois
avant. Ça sortait un mois avant sur le web. Ils ont commencé à pester et donc ces NDA ont été au début, si je dis pas de bêtises, casés sur les dates de parution à peu près des magazines pour
que ça arrive en même temps sur le web et sur les magazines.
Ouais, effectivement.
Et maintenant, c'est devenu.
Il y a parfois quelques exclus. Voilà. Mais bon, c'est
et maintenant, enfin, c'est Internet en fait.
Oui, mais voilà. Maintenant, c'est effectivement, c'est différent. La plupart des NDA sont, c'est le web, quoi. Enfin,
voilà.
Et parfois, il faut pas y voir aussi que du mal non plus, hein, parce que ça permet aussi à l'éditeur de s'assurer, par exemple, pour un test, qu'il va être testé dans des bonnes conditions et que les gens vont pas juste le rejeter pour être le premier à publier leur test alors qu'ils ont eu le jeu genre 4 heures après, avant, et que boum, il y a déjà le test. Non, là, au moins, tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Et donc tout le monde a le temps de bien le tester et puis après libre à chacun de respecter à la minute près la fin du NDA ou de se ménager. Parfois sur Gameloc vous voyez des tests qui arrivent, alors vous ne le savez pas, mais pile poil au NDA, et parfois on juge qu'on n'a pas eu assez de temps pour approfondir, bah, on n'est pas à la date du NDA, on est un petit peu après parfois.
Mais c'est vrai que le NDA en fait déplace le terrain de l'affrontement qu'il peut y avoir d'un média à un autre plus sur le contenu réel et la façon de le traiter que sur la date de parution, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt positif en fait pour le lecteur en tous les cas.
Mais donc à la question, si vous respectez pas, franchement il y a des vrais problèmes. Alors
oui,
judiciaire potentiellement, mais pas forcément.
Enfin, en tous les cas, ils ont la capacité
de nous faire chier.
C'est justement le but du NDA, c'est que le NDA, c'est un contrat, un précédent papier enregistré, etc., signé, qui fait que si jamais ils ont besoin de porter l'affaire devant un tribunal, ils seront gagnants. Ceci étant, après, dans les faits, il y a eu des NDA pétés un peu à droite, à gauche, c'est arrivé déjà. C'est plus en général un boycott qui se passe plutôt qu'une action judiciaire. Ça va rarement jusque-là, quoi.
Le lien de confiance étant cassé, après,
ils t'envoient plus
les jeux, etc. Attendez, les gars, vous respectez pas ce qu'on vous a demandé, ce sur quoi vous êtes engagés, donc allez vous faire foutre, quoi.
Bah oui, mais c'est normal.
C'est normal. Logique. Et c'est normal.
C'est soit vous voulez travailler seul sans respecter, sans nous, et vous travaillez seul sans nous, et puis voilà, quoi.
Zarkov demandait une anecdote. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on peut en parler? Elle date de l'époque de Joypad. Maintenant, tout ça est.
C'était prescription?
Avec Sonic.
Ah oui! Oh là!
Alors, on va pas citer les noms, etc.
Ouh, c'est vieux ça.
Mais nous avions Joypad l'exclusivité des toutes premières images de Sonic Adventure sur Dreamcast. Ouais. Donc, à la rédaction,
c'était
on les avait regardés.
Exclusivité mondiale.
Mondiale. Ouais. On les avait vus. Ah, c'est super, etc. On va pas le citer parce qu'il travaille encore dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Mais une personne qui gravitait autour de la rédaction et qui avait à l'époque un petit site internet amateur est passée. C'était un pote de la rédac. Voilà. Il a récupéré les images. Et il a dit, est-ce que je peux en parler? On a dit, non, pas avant telle date. Donc en fait, un certain NDA implicite, parce que c'est une exclu mondiale, on s'est engagé. Et le problème, c'est que ces images ont été publiées avant l'heure. Eh bien, sachez que Yuji Naka en personne a demandé un boycott de Joypad pendant des années. Mais des années, ça veut dire qu'il l'a pris extraordinairement mal, alors que c'était pas de notre fait. Hormis notre naïveté d'avoir accepté finalement, mais je sais plus trop comment ça s'était passé, d'avoir confié ses images et
c'était à l'époque où on mesurait pas encore justement totalement ce que pouvait faire Internet en fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte dans les 5 minutes qui ont suivi la publication de ces images sur le site en question, c'était sur tous les sites de la planète entière.
Des...
Avec en gros le logo Joypad dessus qu'il avait rajouté
en croyant bien faire.
En croyant bien faire. Et donc il y avait marqué Joypad sur toutes ces photos.
C'était le cauchemar. Mais on avait pas signé de NDA à l'époque.
Non, il n'y avait pas.
Bien de savoir, ça n'existait pas.
Mais il avait été clairement exprimé.
C'est suite à ce genre d'incident que le NDA est.
A été introduit,
introduit comme ça à tous les coups sur maintenant chaque truc qu'on reçoit ou presque.
Parce que par exemple, on est souvent au courant de choses bien en avance. Là, on est le 20 avril, enfin pour vous, mais là, nous, on est à des dates où normalement il y a des choses qu'on ne devrait pas dire et qui sont publiées. Voilà, mais on respecte ça, bien évidemment. Et puisqu'on parlait de Sonic, nous, ça faisait des semaines qu'on savait qu'il y avait un nouveau Sonic. Bah, vous pouvez aller voir sur Gameblog, il n'y avait pas de mention de ça, ou en relayant des informations de bruit de couloir.
Alors, il y en a qui seraient choqués par ce fait-là, qui disent oui, mais non, mais vous devriez informer, etc. Mais il faut réfléchir un peu plus loin que le lendemain. Et justement, le problème, c'est que si on pète un NDA, on vous informe envers et contre tout en brandissant la sacro-sainte liberté d'information et de circulation de l'information, et ben la fois prochaine, vous saurez rien du tout, puisqu'on n'aura pas, on n'aura plus nos sources. Voilà.
Mais parfois, on demande à des sources qui nous disent des choses, mais on a le droit de le dire. Parce que justement, nous, on essaye de vous donner plus d'informations. Mais par contre, si on nous intime, on nous dit clairement non, ça, je vous le dis pour vous, comme ça, vous serez prêt au bon moment, etc., pour le dire et le dire bien, vous aurez eu du recul là-dessus, vous pourriez y aller bien, mais je vous demande de pas le dire. Bah voilà, nous sommes des gens de confiance et c'est important d'avoir de la confiance dans le travail.
Et puis parfois tu peux aussi comment dire, biaiser un petit peu Andy,
comprendre
que tu sais des choses sans forcément les dire. Ça, ouais, ça arrive, voilà. Donc ça, on en joue un petit peu. Et puis il y a un autre truc aussi qui a commencé à se manifester dans les NDS, c'est les clauses anti-spoil, parce que visiblement il y a beaucoup de personnes qui spoilent. Et parfois dans les NDA, ils te demandent simplement de ne pas parler de tel ou tel aspect d'un jeu.
Et des fois, on reçoit des notices, les gars. Vous pouvez même pas imaginer.
Et c'est horrible parce que vous, en les lisant. C'est-à-dire que
tu dis j'ai parlé de quoi
mais non, jamais les lire avant
en les lisant quand tu vas tu fais ok d'accord donc j'ai appris que Bidule va être le trait du jeu ok donc il faut les lire après
sinon tu te spoil toi-même
mais tu te tues quoi.
Il y a ça et puis il y a le moment du test aussi, moi j'en ai vu aussi des trucs comme ça où au moment où tu dois tester effectivement tu peux pas parler de tel aspect mais c'est quand même important dans le jeu, tu dois quand même l'évoquer à un moment ou un autre, tu dois expliquer, mais tu as pas le droit de parler de ce type de mécanique. Enfin ça je trouve ça aberrant personnellement.
Ah oui c'est aberrant, mais de toute façon
c'est fini, donc il y a un moment où voilà.
Ah non mais
quand le produit est fini, en tout cas Joy Gameblog, ça on s'en fout,
ouais,
ça on ce genre de truc, parce que très clairement s'il est disponible pour tout le monde, eh ben, les règles implicites des journalistes privilégiés n'ont plus lieu d'être, donc voilà.
Mais c'est déjà vu au moment où t'as 15 jours avant, tu vois, et donc tu dois préparer ton test avant. Bah là je suis désolé, t'es coincé quoi. T'es un peu coincé. À ce moment là tu prends le risque de
mais on le prend.
Test après
c'est, voilà. Si ça fait partie de la critique et que c'est très important pour la critique, de que c'est une des clauses principales qui fait qu'on a eu tel ou tel avis, on le dit.
Mais c'est un choix, tu vois, c'est un choix.
Ah bah bien sûr, oui, mais d'habitude ils nous emmerdent pas avec ça.
Allez, nouvelle question, celle de Shipster. On entend parler de déménagement depuis quelques semaines, vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, au moment où vous nous écoutez, nous ne sommes plus là. Voilà, nous avons déménagé. Et normalement, si là, maintenant, tout de suite, vous vous rendez sur la Gamecam,
vas-y, fais le tour pour
voilà,
finir.
Fais le tour une dernière fois. On va se balader. Voilà. Alors là, ici, c'était la zone lounge, machin, où on allait quand même globalement jamais. C'est dingue. On se rend compte qu'au bout de 2 ans, on n'y était pas allé. Là-bas, au fond, c'était la rédaction. Et bah, tout ça, on n'y est plus. Maintenant, si vous allez sur la Gamecam, vous allez vous rendre compte qu'on est dans un lieu un peu plus petit, un peu moins design, comme certains le disaient, et effectivement ici c'est très joli. D'accord.
Bah là il faut voir l'image.
Ah oui, quoi de premium pour.
Non, coupez. Tu coupes
au montage.
On l'a refait.
Effectivement, on a déménagé. Alors pourquoi ce déménagement, Julo? On peut en parler en totale transparence. Hein.
Pourquoi ce déménagement? Eh bien, écoute. Nous avions un bail, tout le monde sait ce que c'est qu'un bail, qui prenait fin là maintenant, et il se trouve que les locaux qu'on occupe actuellement vont être occupés par d'autres gens, et que nous dans le même temps on avait besoin d'un tout petit peu plus d'espace pour améliorer justement cette zone dans laquelle on enregistre les vidéos, les podcasts, etc., et qu'on va désormais avoir un petit studio exprès réservé à ça dans nos nouveaux locaux.
Oui, alors c'est pour ça qu'un tout petit peu plus d'espace, je crois que ça se joue à 2-3 mètres carrés de plus qu'ici,
mais c'est mieux organisé,
mais par contre nos bureaux sont plus petits.
Certes.
Nous n'y sommes pas encore, je le sais déjà.
Les nôtres en particulier, oui, mais la salle où se trouve Poufy
voilà,
et
ça
compagnie
y est.
Sera plus grande, donc c'est n'importe quoi.
On sait ce que c'est.
Non, ouais. Mais merde.
Quand
c'est
t'es patron, ça a été maltraité.
Tout pour les employés.
Donc voilà.
Chouette.
Alors c'est un petit peu moins sexy qu'ici, parce que c'est vrai que c'est très joli ici, mais c'est plus classique, on va dire. C'est des bureaux.
Ouais, c'est des bureaux.
Mais néanmoins, normalement, ça devrait être l'un des derniers podcasts. Alors peut-être qu'on en enregistrera un autre avant de partir, donc on ne sait pas. Où ça va plus résonner, il y aura plus les bruits de porte que parfois certains entendent, il n'y aura pas les petits bruits machin, et donc ça va être normalement, techniquement, et donc pour vous,
Jean-Robert,
mieux. Voilà, mais effectivement, comme on l'a déjà dit, vous le voyez, c'est pas non plus des locaux surbourgeois, car pour l'instant, clairement pas, nous n'avons pas les moyens de
vous
permettre. Et ici, effectivement, on bénéficiait du cadre, mais la rédaction, elle était au fond, hein, et elle n'était pas très bien.
D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit oui. « Ah, je pensais que c'était plus grand. »
Ouais, c'est ça.
Je vous rappelle que je peux pas m'asseoir, moi.
Oui, mais
Mimic
t'es trop grand.
Mimic, peut-être pour d'autres raisons.
Un bureau.
Oh, putain.
Le plus grand. Peut-être.
Lui vend pas trop de trucs.
Dans la rue.
C'est ça.
Amenez le mien en fait devant.
Voilà. Allez. Mais est-ce qu'on tiendra tous là comme ça dans le.
C'est à 4, ça va aller.
D'accord.
Les podcasts à 5 peut-être risquent de.
Bon, on fera des étages
à organiser.
On mettra en hauteur.
On va acheter
c'est ça, il faut qu'on fasse des gradins.
Mais non,
franchement, on part à l'aventure. Franchement, je vous le dis comme je le pense, on part à l'aventure. Mais
le canapé superposé, c'est pas mal, ça, comme concept.
Et genre, on parle
en fait, alors,
une réponse de Jean-Michel.
Après tout, normalement, c'est une émission à la base audio.
C'est vrai, c'est vrai. Allez, nouvelle question, celle de Calvin, qui justement est déjà passé à la rédaction puisqu'il est premium soutien et entre autres avait dit « Ah tiens, c'est plus petit que ce que j'imaginais ». Sa question, c'est « Les déplacements frais pour les grands salons du jeu vidéo sont probablement très coûteux à couvrir. Par quel biais financez-vous ces événements? Êtes-vous invité par tel ou tel développeur? Dans quel cas l'objectivité est-elle aisée à maintenir face à l'actualité du dit financier malgré l'offre si elle existe ?»
Non, ça, c'est une question pour Raon, il a compris.
Ouais. Donc toutes les couvertures de salons, etc., ça coûte très cher, oui. Il faut payer l'avion de plusieurs personnes, les nuits d'hôtel.
On mange modestement, mais nous mangeons quand même.
Ça arrive, effectivement. Ouais. Enfin bref, tous les frais liés, c'est un petit peu comme si on partait
parfois
en vacances,
des taxis ou des voitures, parce que par exemple, quand on est à Los Angeles, je peux vous dire que les distances sont assez longues.
Ouais. Évidemment, l'hôtel coûte plus cher pendant les dates de l'E3 à Los Angeles.
Ça, c'est pas drôle.
À Cologne pendant la Gamescom, c'est dingue. Aussi. C'est dégueulasse.
Les vols aussi.
Mais comment ça fait ?
Bref, donc
les vols, bien sûr.
Ouais, et tout ça est effectivement à la charge de la société Gameblog, de la rédaction de Gameblog, qui paye tout ça pour tous ceux qui partent.
Alors, ce qui n'est pas le cas, je fais un distinguo parce que cette question a été posée dans un autre lieu dans les forums et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais je comprends pas, vous êtes pas rentable et vous partez, vous dépensez de l'argent, etc.
Bah oui,
tous les voyages de presse hors salon, c'est-à-dire quand on va voir le nouveau Sonic, quand nous allons découvrir, quand Raon part par exemple à San Francisco pour découvrir le line-up Microsoft, là, tout ça, ce n'est pas du tout Gameblog qui paye.
C'est des événements organisés par les éditeurs. Oui,
exactement. Voilà. Alors qu'un salon est un salon sur lequel il y a tous les constructeurs, tous les éditeurs. Et donc là, c'est à la charge effectivement des organes de presse de s'y rendre ou pas. Mm. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est essentiel d'y être parce que c'est là où tout se passe. C'est là où nous allons pouvoir rencontrer les développeurs et donc vous nous apporter des interviews, découvrir des choses qu'on ne pourrait pas voir de toute manière, puisqu'il faut savoir que même sur ces événements-là, qui sont pourtant réservés à la presse, tout n'est pas non plus montré directement et qu'il y a certaines choses qu'on appelle les behind closed doors sur lesquelles
certains médias sont invités, certains partenaires sont invités. Il y a des présentations aussi qui sont réservées au trade dans ces trucs là donc le trade, c'est la distribution,
c'est tous les pros quoi.
Et puis les bruits circulent, vous savez, dans un salon on discute, on rencontre dans au détour d'une allée tel ou tel développeur qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, on discute avec lui, qu'est-ce que t'as vu machin, etc. Donc c'est effectivement très important d'être sur place et c'est pour ça qu'on investit cet argent pour le faire. Donc oui, les salons on les paye. Et puis la fin de la question, donc c'était
si vous êtes invité par un éditeur, est-ce que du coup vous avez le droit de dire ce que vous pensez ou comme il vous a invité, bah vous êtes cool? Autant dire qu'on s'en fout un peu, enfin on est très content qu'ils nous invitent, mais à la fois si leur jeu est pas bon, on va le dire très clairement, c'est pas dans notre intérêt une fois de plus par rapport à vous. Si on n'est pas honnête, c'est avec vous qu'on doit être honnête, parce que c'est vous qui nous suivez.
C'est pas les éditeurs en fait qui font vivre Gameblog tant que ça, ce sont ses lecteurs, puisque les éditeurs ne viennent sur Gameblog et n'accorde de l'importance à Gameblog que parce qu'il est très lu. Donc la dynamique elle va dans ce sens là, pas dans l'autre sens. Donc effectivement la j'ai envie de dire la ressource première de Gameblog, c'est son lectorat.
Exactement.
Ce qui est logique et sain.
Et donc mais de toute façon ça arrive, ça c'est déjà arrivé qu'on parte sur un événement, qu'on voit un jeu, qu'on trouve ça pourrave, qu'on le dise, et puis que la fois d'après on soit pas invité par l'éditeur, mais ça fait partie du jeu.
Mimique.
Il y a une petite tendance aussi que moi je trouve intéressante avec le recul que j'ai maintenant avec les années, où je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui t'invitent qui sont aussi conscients du fait qu'il y a un problème sur leur produit en fait, ils le savent.
Oui.
Et limite ils prennent même bien avant qu'on leur dise avec des mots sympas, hein, franchement tu sais je vais pas en parler en bien parce qu'il y a ça et qui va pas, ils préfèrent ça plutôt que quelqu'un qui leur ferait un grand sourire en disant putain ton jeu c'est génial, merci de m'avoir invité, parce qu'ils savent que ce mec est un faux cul quoi.
Exactement. Et ça c'est vachement sympa parce que il y a quelques années les gens se posaient la question, tu leur disais, ils étaient vraiment pas contents quoi, donc ça c'est bien aussi,
mais ça dépend.
Prise de conscience.
Le truc aussi c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens de l'autre côté qui sont donc RP aujourd'hui, qui savent bien mieux ce que sont les jeux et quelle est leur qualité qu'à une certaine autre époque où ils savaient pas trop.
Tout à fait.
Donc ça joue déjà aussi beaucoup. Et puis même vis-à-vis des développeurs, il est toujours préférable à mon sens d'être honnête avec eux, parce que c'est pareil, ils ont la tête dans le guidon tout le temps, ils voient pas forcément ce qui se passe à côté, ils ont pas forcément joué à d'autres jeux à côté qui sont importants, etc. Et parfois ça peut aussi les aider à sortir un jeu meilleur, tout simplement parce que les press tours on les fait pas toujours un mois avant la sortie du jeu, loin de là. Même en général c'est souvent en amont, et on a même fait des press tours pour des jeux qui ne sont jamais sortis, qui ne sortiront jamais. Comme par exemple le dernier True Crime, qui en a eu, il y a eu au moins trois présentations du jeu avec beaucoup d'évolution. Il a été retardé, repoussé, bon finalement il sortira jamais apparemment, mais voilà, donc ça sert à ça aussi, et surtout à lier des contacts privilégiés avec les développeurs et à nous permettre, nous peut-être à d'autres occasions plus tard, d'avoir des discussions qui sont plus de l'ordre de l'entretien et de la papote cool
que de l'interview classique, chartée, etc.
Oui, ils attendent un retour qui effectivement de plus en plus, on sent que c'est de plus en plus important pour eux d'avoir l'avis des journalistes.
Et en amont.
Ouais, exactement. Voilà, on sent vraiment. Enfin, par rapport à il y a 10 ans, c'est clairement il y a une différence. Quoi.
Ils en veulent. Pour avoir un petit consulting, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire que quand on écrit nos articles en preview après sur ce qu'on a vu avant la sortie du jeu, etc. C'est des choses qui peuvent être compilées et qui peuvent servir de feedback vers les studios ou vers les décideurs, etc.
Et puis ça leur donne un avis en amont de la sortie des critiques, donc ils risquent pas de tomber des nues s'ils se font défoncer en preview si jamais les critiques suivent dans la même direction, quoi.
Et puis pour ceux qui se posent des questions sur l'objectivité, l'intégrité des rédactions, et en l'occurrence là de Gameblog, et bien sûr Gameblog par exemple, un dernier détail bien sûr mais qui est d'importance, vous savez tous, parce qu'on est totalement transparent là-dessus, que Ankama, la société Ankama est associée de manière importante à l'aventure de Gameblog. Vous pouvez aller lire le test de son dernier jeu, Island of Wakfu. Ouais. Sur le test, effectivement, nous avons trouvé qu'il y avait des points très positifs et des points plutôt moins bons. Ils ont été exprimés en totale franchise, en totale honnêteté. Le jeu n'a pas récolté d'ailleurs une note extraordinaire. Ce n'est pas non plus un mauvais jeu, mais vous imaginez bien que s'il y avait un quelques doutes d'objectivité ou d'intégrité de la part de la rédaction de Gameblog, forcément, vous ne tapez pas votre associé, quoi.
Et j'irais même plus loin, puisqu'en l'occurrence, tu cites cet exemple-là, au-delà des liens juridiques qu'il y a entre Ankama et Gameblog, le directeur créatif de Islands of Wakfu, c'est un ami, donc quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a des relations vraiment proches. Et ça n'a pas empêché que voilà, on a fait notre travail, quoi. Voilà. Enfin,
pour nous, c'est
important, et c'était important pour lui aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi un premier jeu, donc il était très content de la façon dont on l'a traité.
Ouais. C'est très important pour nous que ce lien de confiance soit réel, et c'est pour ça qu'à chaque fois, on essaie d'être le plus franc, transparent et honnête possible. C'est notre métier, c'est notre passion, et il faut qu'on s'emploie pour le faire le plus précisément possible. Nouvelle question, celle de Mortipoil. Versus continuera-t-il sur la même formule, ou le concept évoluera-t-il pour que les débats soient un peu plus intéressants et argumentés que la guéguerre de préjugés avec peu d'argumentation sur les propos tenus. Alors, il faut savoir,
ça va finir par plus devenir Versus du tout finalement.
Alors effectivement Versus, vous le savez, c'est pas fake, hein, c'est vraiment à chaque fois on choisit des sujets en concertation avec Alain et Cyril Drevet sur lesquels vraiment ils sont opposés, c'est pas surjoué, après, non, ils ont leur caractère,
on élimine les sujets où ils sont pas,
voilà, on leur pose toujours la question, vous êtes d'accord ou pas, oui, bon bah on le fait pas. voilà, après effectivement Versus maintenant est à plus de son 50e numéro si je dis pas de bêtises, donc ça fait beaucoup. Très honnêtement, là on commence à voir avec AHL et Cyril qu'on arrive un petit peu au bout aussi, même le centre du concept et de leur divergence. Donc il y a des choses qu'on va faire évoluer effectivement pour une prochaine saison, car nous on apprécie toujours autant et Alain et Cyril, et que leur association franchement est vraiment sympathique. Probablement sous une autre formule, une autre manière, on est en train de réfléchir avec eux, probablement plus de l'affrontement, peut-être plus du côté de la rétro, qui, sur lequel ils ont une réelle légitimité vraiment forte, vraiment des vieux de la vieille du jeu vidéo, ils en parlent extraordinairement bien, et là ils seront pas dans l'affrontement mais plutôt justement sur vraiment du vécu, et donc il est possible par exemple que vous retrouviez Alain et Cyril sur une tendance plutôt rétro gaming sur Gameblog plutôt que sur des Versus, mais voilà, rien n'est arrêté, tout est encore imaginé, et on est en train de réfléchir ensemble. Voilà.
À la suite.
Ça va évoluer, bien sûr.
Exactement. Eh bien, écoutez, il nous reste deux questions avant de conclure ce podcast. L'avant-dernière question sera donc celle de Fitz Chevalerie. Bonjour à
vous. T'as vu, là, tu arrives bien.
Oui, mais il n'y a qu'un 4. Alors, un 4, voilà. L'autre, il y en a trop, là. bonjour à vous. Moi, j'ai deux questions. La première concerne le site. Pouvez-vous nous dire comment vous survivez ? Aujourd'hui, si Gameblog n'est pas rentable, cela signifie que vous perdez de l'argent.
Alors oui, ça
genre faudra
l'écrire
de l'argent.
Part,
voilà, parce qu'on
mais Gameblog est en phase d'investissement.
Beaucoup de personnes se posent la question. Julo.
Gameblog est en phase d'investissement, c'est-à-dire que suite au rapprochement qu'on a eu notre structure de base avec Ankama, on a pu débloquer des fonds. Ces fonds nous servent aujourd'hui à nous développer, nous servent depuis en fait c'est depuis le mois de mai 2009 je crois,
c'est ça.
Nous développer d'abord en nous embauchant, parce qu'à la base il faut savoir que Gameblog c'était zéro d'un côté en dépenses comme en gain, À partir de là, on a pu constituer une rédaction. Ça, ça coûte très cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est ça, c'est la masse salariale. Et puis, il y a tout le reste, hein, évidemment, l'achat de matos, les déplacements, les
frais courants aussi, l'électricité, les serveurs,
les frais généraux,
les taxes.
Donc tout ça, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on a un plan à long terme, parce qu'on n'est pas là
on n'est pas là pour déconner, les gars.
On n'est pas là pour déconner, on est là pour rester longtemps. Donc on voit quelques années en avant, et on a des... Voilà, comme tout...
un business plan,
comme tout bon business, on a un plan et on va avancer dans une direction qui fait que jusque là on respecte des paliers, on augmente en audience, comme on vous l'expliquait tout à l'heure. L'audience, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qu'on transforme en bénéfice par le biais de la publicité, des choses comme le premium qui sont très utiles,
très important.
C'est à dire que la notion d'audience, c'est pas seulement une notion de quantité, c'est aussi une notion de qualité.
Bien sûr, il y a les liens commerciaux et tout un tas de choses comme ça qui font qu'on apprend en ce moment à monétiser notre audience, qu'on la monétise de mieux en mieux, et d'abord parce que vous êtes de plus en plus nombreux, parce qu'on optimise, etc. Et donc on est toujours dans cette phase où nous gagnons beaucoup moins d'argent que nous en dépensons. Simplement, ça ne va pas durer éternellement. Il y a un moment où il n'y a plus rien dans les caisses. Là, on est dans ce moment-là où il y a encore de l'argent dans les caisses qu'on dépense, et on arrive à en gagner de plus en plus sans en dépenser beaucoup, beaucoup plus, ce qui fait qu'on va atteindre bientôt un point d'équilibre qui va être situé dans les mois, années qui viennent.
Et ça, c'est lié à un business plan. Mais on y arrivera si on arrive à faire ce que nous avons imaginé. C'est-à-dire à la fois, par exemple, que l'audience continue à augmenter dans les volumes qu'on imagine, abonnements premium perdurent et même s'intensifient un petit peu au fil des mois et des années, que vous soyez de plus nombreux, on le souhaite, à bénéficier des offres qu'on peut faire dans la boutique Gameblog avec les ventes de jeux sur lesquelles, honnêtement, il y a de vrais rabais. Et à chaque fois, ça rapporte un tout petit peu à Gameblog, mais un tout petit peu plus. Mm. Voilà. C'est si tous ces points de passage sont validés que ça nous permettra d'y arriver. Et c'est ça ce qu'on vise, parce qu'on sent que ça peut marcher. Mais tout ça, il y a encore des points d'interrogation, car si ce n'est pas le cas, si l'audience commence à flancher, si les premiums se désinscrivent, ou s'il n'y en a pas qui arrivent de nouveau, si personne n'achète dans la boutique, soyons très honnêtes.
Bah, les deux cons vont pas se croiser, donc
on aura raté. Et donc Gameblog s'arrêtera, effectivement. Donc nous, on est très confiants. On est vraiment très confiants parce qu'on sent cette dynamique, on sent chez vous vraiment une énergie, une envie de participer, on voit que l'audience est en progression constante depuis le début.
Et puis tous les investissements qu'on fait, qu'ils soient financiers, soit humains, on sent qu'il y a des répercussions. C'est-à-dire que on surveille donc évidemment notre audience, on voit qu'elle augmente. L'année dernière, elle a doublé notre audience, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est
on
hyper
a été
positif.
Le site en France qui a connu la plus grosse croissance sur le jeu vidéo. Mais quand vous êtes plus petit que les gros, entre guillemets, tant mieux qu'on grossisse beaucoup, car il reste devant.
Oui, et puis c'est surtout que l'économie sur le web, en fait, c'est traître, parce que il suffit pas juste d'être gros, il faut être très très gros, en fait. C'est exactement comme un jeu sur l'App Store, par exemple. Vous avez un jeu qui coûte 0,79 centimes, alors il en vend peut-être 10 millions, ça a l'air d'être super, mais 10 millions de 0,79 centimes, c'est pas 10 millions de 70 euros. C'est pareil, il faut des volumes énormes pour qu'on atteigne ce fameux point de rentabilité.
Pour vous expliquer un peu mieux aussi, par exemple, si on voulait par exemple faire en sorte que Gameblog soit rentable là actuellement,
ce qu'on veut d'ailleurs, tu sais,
non mais là tout de suite, demain. Si vous voulez que demain ça soit rentable, eh ben il faudrait virer Raan, Julien, moi-même, Traz.
Et pourtant je vous assure que nos salaires ne sont pas non plus exorbitants.
Et lui aussi, peut-être, je crois, et peut-être ça suffirait. Et 4 personnes, je pense.
Tu veux pas le virer?
4-5 personnes, voilà. À ce moment-là, on y arriverait. Donc pour continuer dans ces conditions-là,
Mister P écrirait des news.
Mister P écrirait tout le site, en fait.
Très bien. Voilà.
C'est-à-dire code plus contenu.
Voilà, avec les pigistes, et puis nous, on partirait. Non, mais voyez,
ils ont déjà les meilleurs bureaux maintenant. Donc, on a bien compris ce qui allait se passer.
C'est ça qui est super désagréable en termes de temps, là, son planning. Alors bon.
Non, mais voilà, en gros, on a un fonctionnement qui fait que pour l'instant, on n'est pas rentable et qu'on vise à l'être très rapidement, le plus rapidement possible, grâce à vous, grâce à l'audience.
Mais après, et là, vous l'avez bien compris, on est vraiment en train de vous parler avec franchise. Il faut bien comprendre que dans le business, le modèle que suit Gameblog, c'est-à-dire une phase d'investissement avec un business plan qui lui permet de réussir quelques années après, c'est quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire qu'au début,
c'est ultra classique.
Vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez parce que vous avez construit votre business avec des points clés que vous pensez et que vous faites tout pour valider, qui vous permettent après d'en gagner plus, de rembourser vos pertes, mais c'est des engagements à très long terme. C'est-à-dire que nous, l'aventure Gameblog, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est même plus que 10 ans. Voilà, on est investi là-dedans, donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui se diraient, mais attendez, Gameblog, ça peut fermer machin, bah oui, bien sûr, si ça foire, bah, si
théoriquement,
personne ne vient.
Fermer, hein, si personne n'achète de Nike, Nike ferme toutes ses usines.
Mais on est très confiant, on y arrive bien, mais pour ça, si on est très confiant, c'est parce qu'on a confiance aussi en vous, on a confiance sur le fait que vous compreniez bien ce qu'est l'abonnement premium, que c'est un vrai acte de soutien, qu'il a vraiment son importance, et que vous, et on le sait, êtes de plus en plus nombreux à partager les liens sur Facebook, sur Twitter, à en parler à vos amis, qui fait que ça ramène de plus en plus de personnes sur Gameblog, et que voilà, c'est ça qui permettra à Gameblog de perdurer. Et si vous aimez Gameblog, eh bien voilà la marche à suivre. Après, si vous n'aimez pas, faites ce que vous voulez. Si vous en avez marre de voir notre gueule ou de nous entendre, éteignez tout. Hein. Il y a d'autres choses à côté. Hein.
Il fait beau dehors.
Exactement, en ce moment, c'est pas mal. Allez, dernière question, celle de Jambion, premier prix. Et cette question, Julo, elle est pour toi. À quand le paiement premium par Lopass?
Eh bien, tout bientôt, parce que alors on a engagé toutes les démarches nécessaires pour pouvoir le mettre en place. Maintenant, ça va plus être une question justement de mise en place technique. Hein, donc, c'est encore une fois Mister P qui va tout donner, mais c'est évidemment une option de paiement qui est très importante. Et parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous soit sont trop jeunes pour avoir une carte bleue, rechignent en fait à utiliser les moyens de paiement actuels. Et c'est vrai qu'à l'Opas, c'est très pratique pour ça. Il suffit d'envoyer des SMS, il suffit de passer un coup de fil depuis le bureau par exemple.
C'est ça, c'est vous.
Non, donc c'est vrai que c'est important, c'est important pour nous autant que pour vous en fait, parce que c'est grâce à ça que certains qui n'ont pas franchi le pas encore vont le franchir. Donc ça va être mis en place. Le seul truc, c'est qu'évidemment Allopass, le seul problème d'Allopass, c'est tellement pratique qu'il faut bien qu'il y ait aussi un point un petit peu négatif, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup moins d'argent gagné pour nous sur chaque opération. Donc ouais, on va probablement marge, ouais. Alors ça, c'est le premier défaut, et le deuxième défaut, c'est que c'est du micro paiement, donc vraiment c'est des petites sommes. On pourra certainement pas s'abonner à l'année, je pense pas, à moins de faire des batteries de code, etc., mais ça devient compliqué. Donc on va peut-être penser à des nouvelles formules d'abonnement, peut-être à la semaine. C'est en ce moment, on est en réflexion là-dessus, et ça, c'est le côté vraiment théorique. Et il y a le côté technique aussi qui va être la mise en place. Mais Allopass, c'est en route. Voilà, ça va, je pense, être opérationnel dans les petits mois qui viennent. Quoi.
Ok. Voilà. Et bien voilà, vous avez
putain,
désormais.
Ils ont eu droit. Attends, ils ont une similitude technique, ouais, déballé la totale.
Mais non, ils sont, moi, je trouve qu'ils sont bien, ces courriers des lecteurs. Et alors, pour ceux qui sont encore dans le forum, parce qu'on le voit encore, qui disent oui, mais machin, vous avez compté combien il y a eu de forums de podcasts, saga, événements, personnalités ces derniers temps? Ouais, on arrive à panacher tout ça très correctement, donc pas de panique. Voilà, il y a plein de podcasts qui ne sont pas les courriers des lecteurs.
Même si on prenait qu'aujourd'hui, de manière fixe comme ça, c'est la moitié des podcasts, les podcasts de saga.
Bah non, si tu prends aujourd'hui, c'est beaucoup moins, puisqu'on en faisait pas il y a encore.
Saga, c'est largement plus même. C'est trois quarts.
Non, mais si tu prends ce qu'on fait actuellement, on a un fonctionnement avec un courrier des lecteurs par mois.
Bah c'est même pas le cas.
Et encore, voilà, c'est ça. Et encore, quand il y a vraiment un sujet d'actu, quelque chose sur lequel on a vraiment envie de faire un podcast, et bah la dernière fois, c'est le qu'on a coté, c'est le courrier des lecteurs. On a collé le courrier des lecteurs la dernière fois.
C'est toujours, on sera tout. L'actu prédomine, mais quand l'actu n'est là en ce moment, l'actu est
typiquement
ouf. Et on fait un bon courrier des lecteurs parce que vous, visiblement, ça vous intéresse. Vous êtes très très nombreux à nous poser des questions. Nous, ça nous intéresse aussi parce qu'on voit un peu les questions que vous vous posez. Et puis ça fait un vrai podcast différent.
Exactement,
des bilans de l'actu.
Parce que, n'oubliez donc, pas voilà. Que un podcast courrier des lecteurs, c'est un podcast. C'est un podcast multithématique en fait. Ah ouais, on parle de plein de choses.
Tout peut arriver.
Et voilà, évidemment, il y a des micro-débats sur chacune des petites questions que vous posez. Donc
et vous apprenez plein de trucs. C'est super. Est-ce que quelqu'un a un mot de conclusion, un appel à lancer, je sais pas.
On se joue. Venez nous rejoindre.
Bien des. En tout cas, voilà. Bon, alors si personne n'en a, j'ai envie de vous dire.
Non.
Avec Lipton Ice Tea, dès que vous avez
ça y est, la pub dans les podcasts.
Exactement, mais bien non. On vous souhaite une bonne semaine. Ce sera mieux. Hein, semaine faite de jeux vidéo. N'hésitez pas à sortir aussi un petit peu. A priori, il fait beau en ce moment. C'est agréable aussi. Connectez-vous sur Gameblog. Parlez de Gameblog autour de vous. Retrouvez-nous sur le Facebook de Gameblog, sur le Twitter de Gameblog ou sur le Twitter de Poufy, Poufy GB ou le Twitter de Raon, underscore Raon,
oui, il est
underscore.
Mais alors, et il y a aussi Salomette et puis Vasky et puis Caféine qui sont aussi sur Twitter. Voilà.
Et moi, parce que c'est pas la
tu t'es pas cité encore ?
Bah non, putain, bah je sais, je me cite jamais moi.
Qui,
je laisse toujours. Donc Julien Chiez.
C'est voilà, tout attaché.
C'est tout attaché. Ouais. Voilà. Et comme ça, vous pourrez rester et découvrir, avoir des coulisses, tout ça. Allez, on se quitte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast complètement dingue. Jouez bien, reposez-vous bien, kiffez bien.
Ouais.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.